Et bonjour tout le monde, c'est parti. Avant-match, PSG Newcastle, l'heure de la revanche a sonné. J'ai avec moi Tonton et Basto. Comment allez-vous, messieurs?
Fort bien,
Fort
la
bien, j'attaque
pêche.
fort comme ça avec le volume et tout, histoire de vous mettre en forme. Et je vais lancer Tonton sur une petite statistique qui commence à apparaître et qui, mine de rien, semble se confirmer. Un Colo qui est décisif toutes les 32 minutes en sortie de banc et qui est décisif toutes les 174 minutes en titulaire. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur le sujet?
Pas étonné? Pas étonné, enfin moi je le vois plus en tout cas comme un ailier gauche dans un rôle de finisseur ou ailier droit avec un rôle de finisseur. Si tu le mets en neuf, pour moi, il doit plus rentrer en cours de jeu une fois que bah, Ramos a bien taffé. Et on l'a vu contre Monaco, justement, bah, le fait qu'il rentre à un moment où les joueurs en face sont fatigués et que lui, bah, il a cette énergie, il faut dire ce qui est. Je le trouve en tout cas beaucoup plus pertinent de cette manière-là, à ce poste-là en tout cas. Mais si tu le mets titulaire, pour moi, il doit plus décaler sur l'aile.
Ok, Sébasto, vas-y, je te laisse enchaîner tout ça. Et au passage, on dit bonjour à Vizu, le premier à nous dire bonjour. J'espère que ça va de ton côté. Et si tu viens d'arriver, on est en train de parler de Colo, qui est beaucoup plus décisif quand il rentre que quand il est titulaire. Basto, je te laisse enchaîner.
Ouais, c'est moi qui ai fait ces petites stats hier pour vérifier, parce que c'est vrai qu'on avait cette impression visuelle que Colo était plus décisif en rentrant. À ce point-là, c'est vrai que ça fait quand même une différence énorme. 30 contre 172, c'est 3-5 fois plus décisif quoi, en sortie de banc qu'en étant titulaire. A contrario, on peut aussi dire que Ramos n'a jamais été décisif en sortie de banc, sauf contre Marseille, mais rentre à la 20e. Donc il joue tout le match derrière après la 20e, mais dès qu'il joue 20, 25, 25, 30 minutes, Ramos n'est pas décisif, à contrario, pas une seule fois. Donc on a un joueur, là non plus, ce n'est pas forcément étonnant. Ramos n'a pas forcément le profil d'impact player. On voit aussi que Colo a mis notamment des buts souvent en sortie de banc quand le PSG menait déjà au score, que ce soit contre Rennes, que ce soit contre Monaco, donc à chaque fois avec une équipe adverse qui laisse plus d'espace, donc ce qui correspond plus aux qualités de Colo. Donc oui, c'est vrai qu'on pourrait pour avoir cette impression qu'il serait mieux de commencer avec Ramos pour fatiguer l'adversaire et Colo en sortie de banc. Maintenant, a priori, c'est Colo ce soir, et donc Enrique n'est pas d'accord avec cela.
Alors, petite question à Adèle, tu nous parles d'où pour nous parler de soir déjà? Je suis curieux, n'hésite pas à nous le dire. Et Basto,
Il est
je te trouve
peut-être
gentil.
décalé sur le décalage horaire.
Et Basto, je te trouve gentil. Tu t'y attendais à cette stat?
5 fois plus, peut-être pas. 3 fois plus, oui. Enfin, je m'attendais à ce qu'il soit plus décisif assez largement en sortie. Bon, maintenant, si je peux rajouter un truc sur justement Enrique qui met Colo ce soir, je trouve ça un peu. Je comprends pas trop sa gestion. En fait, Ramos sort vraiment de son meilleur match là, clairement avec Paris, mais la même compo que contre Monaco, l'équipe qui avait marché, sauf lui. Il n'y a pas de continuité. Il n'y a jamais un joueur qui enchaîne 2 matchs, que ce soit Colo ou lui. Mais là, on peut penser que Ramos vient justement de sortir cette performance individuelle et collective où il a enfin été pleinement intégré dans le collectif. Il a touché une 45 ballons, ce qui était 3 fois plus que d'habitude. Et hop, tu le mets pas. Et en plus, c'est un peu incohérent avec ce que dit Enrique, qui dit qu'il demande à son neuf de décrocher. Et ça correspond beaucoup plus au jeu de Ramos que Colo, donc je sais pas pourquoi. J'ai pas de
Est-ce que
réponse
toi,
là-dessus.
tonton, t'arrives à trouver une rationalisation, une rationalité, choisissez le mot que vous voulez, dans les choix d'Enrique par rapport au poste de neuf? Salut Val.
Non, je pense, il fait des tests encore, tu vois, c'est sa première saison, j'aime bien le dire, mais tu vois, ni Ramos ni Kolo Muani ne savent jouer en tant que neuf dans un jeu de position avant d'arriver au PSG, aucun des deux n'a Mbappé dans les pattes, donc je pense qu'en fait, il fait des formules, Luis Enrique, jusqu'à trouver ce qui, lui, le satisfait le plus, parce que c'est pas parce que toi, Basto, t'as estimé que Gonçalo Ramos fait son meilleur match au PSG ce week-end que Luis Enrique en est forcément satisfait. Je pense que s'il avait eu le choix, il n'aurait pris ni l'un ni l'autre, il aurait pris un tout autre profil. Mais bon, on ne va pas refaire l'histoire, hein. C'est facile de refaire l'histoire après la bataille. Mais je pense que tout simplement, en fait, il est encore dans des phases de test et c'est normal, il n'a même pas fait une demi-saison. Donc, ça aurait été plus simple s'il avait eu tout de suite le profil qu'il voulait au poste de neuf. Et là, on ne se poserait pas la question. Mais là, je pense qu'il fait encore des tests. Et oui, c'est un peu bizarre de ne pas donner de continuité à tes joueurs, mais peut-être qu'il attend certaines choses dont toi et moi, on ne sait pas vis-à-vis de ses joueurs. Et que bah, justement, c'est pour ces raisons-là qu'il n'arrive pas à maintenir aussi une certaine régularité à ce poste.
Mais je te trouve gentil
Après,
avec le mot
c'est
de test. Je te trouve
que. Ouais.
gentil avec le mot de test parce qu'en fait, si tu veux, de ce qu'on constate, on va souvent avoir un Ramos qui va être titulaire dans le match pré-Ligue des Champions, qui est le match qui compte, qui est le match curseur de la semaine quand c'est le cas, et un Colo qui est titulaire dans le match de Ligue des Champions. Donc, si tu veux, c'est peut-être un test, mais il y a une recrudescence de ce test et il y a un pattern quand même qui est identifiable, non?
Non, mais après, il était têtu, Luis Enrique. Est-ce que tu étais surpris?
Bah non, je peux pas
Voilà,
dire que je suis surpris, quoi. Mais
Non, après,
bon,
c'est.
Est-ce qu'on est tous d'accord pour dire qu'un joueur qui manque singulièrement de technicité, mais qui est particulièrement actif dans le jeu, va être plus utile en fin de match quand l'équipe adverse est fatiguée?
Il y a une autre option aussi. Est-ce que Luis Enrique ne tenterait pas le Asensio faux neuf?
Ça,
ah, si,
ça,
si,
ça,
mais
c'est
là,
bien sûr.
pour le moment, ce n'est pas le cas. Il vient tout juste de revenir. On parle de quand Asensio n'est pas là. Entre Ramos et Colo, c'est Colo qui est privilégié en Ligue des Champions, en tout cas systématiquement.
Ah, pour le moment, oui. Tu peux pas le nier. Je veux dire, les faits sont là, tu vois. Mais je pense qu'en fait, ils tentent des choses et que pour le moment, les deux, ils ont besoin de temps pour s'intégrer, tu vois, justement, dans ce système. Et que, en attendant, peut-être la solution la plus satisfaisante pour lui, c'est Asensio, parce que c'est le seul qui a déjà joué faux neuf dans son système.
Ça, on est d'accord. Bon, alors maintenant, et là, ça en parle déjà beaucoup dans le chat, hein, ça nous parle inévitablement de ce soir, avec ce qu'on a, il y a deux, trois messages qui sont dans ce sens-là, il y a la pression qui commence à monter, avec un match qui, mine de rien, peut être pas tout à fait décisif, mais en tout cas, peut nous ouvrir très grand le chemin vers la qualification. Est-ce que vous attendez une revanche ce soir, messieurs? Basto commence, c'est Tonton qui avait commencé tout à l'heure.
Bon, on en a déjà parlé samedi, en soi, moi j'ai déjà donné ma réponse au live de samedi, hein. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit, on va peut-être laisser Tonton, mais je vais répéter ce que j'ai dit un peu. Côté revanche, je pense pas, je pense que le club, quand tu prends 4-1, ça reste dans ta tête un ou deux jours et tu l'oublies, donc je pense pas qu'on est là en mode revanche, on est là parce que c'est un match décisif, qu'il faut absolument le gagner pour se qualifier. Et une revanche, tu l'as pas sur un match de poule en aller-retour. Je pense pas, en tout cas, que ce soit. Je pense pas que les joueurs rentrent avec l'esprit de laver leur honneur et d'avoir une revanche. Non, ils viennent parce qu'ils sont dans l'obligation de gagner pour se qualifier, tout simplement.
Tonton, je te laisse réagir.
J'allais rejoindre Basto sur cet aspect du on n'est pas dans un huitième ou un quart de Ligue des Champions aller-retour, on a perdu à l'aller et tu joues pas longtemps après le retour. Il y a plusieurs matchs qui sont passés entre le match aller contre Newcastle et le match retour. T'as envie de parler de revanche contre Newcastle? Moi j'ai un peu envie de parler de revanche contre nous-mêmes, parce que quand tu vois le match aller du PSG contre Newcastle, moi ce qui me choque c'est l'erreur technique des joueurs du Paris Saint-Germain. Le taux de déchets, je pense qu'il n'a pas été plus élevé de la saison que dans ce match-là. Tu regardes, les joueurs sont statiques, il n'y a pas de solution. Donc moi je me dis juste, en fait, à partir du moment où le PSG joue son jeu, il peut poser de vrais problèmes à Newcastle, dans le sens où Newcastle en première ligue a eu énormément de mal contre les équipes qui dominent les matchs. Et moi je me dis que si le PSG avait bien fait son taf au match aller, je te dis pas on gagne forcément le match contre Newcastle au match aller, mais si on fait bien le taf, tu finis pas de cette manière là donc du coup, moi j'ai plus l'impression que le PSG en fait il doit être en revanche contre lui-même et faire mieux que ce qu'il a fait lors des deux précédents matchs à l'extérieur en Ligue des Champions, parce que là en fait si tu gagnes ce soir contre Newcastle et que Milan ne gagne pas, hein, qu'il fasse nul ou défaite, t'es qualifié d'office. Donc en fait, il ne faut pas se poser la question de est-ce que c'est une revanche contre Newcastle, c'est fais mieux que ce que tu as fait toi, gagne ton match et calcule pas les autres. Dans le sens où Newcastle, ils ont gagné qu'un match dans cette phase de poule de Ligue des Champions et c'est contre nous. Et là, c'est Milan, ils ont marqué qu'une seule fois en Ligue des Champions, ils ont gagné qu'une seule fois, c'était aussi contre nous à l'extérieur. Donc si nous, on arrive à se battre contre nous-mêmes, entre guillemets, j'estime qu'en fait, le PSG peut le faire. Mais pour ça, il doit faire un bien meilleur match que ce qu'il a fait au match aller, notamment... dans la réussite technique.
Et je vais rebondir par rapport au commentaire de Rowan qui nous parle d'humiliation et que Luis Enrique a une responsabilité. Est-ce que pour vous, pour les joueurs, il n'y a pas d'histoire de revanche, mais est-ce que pour les supporters, il y a revanche, le mot est peut-être un peu galvaudé, mais est-ce que ce match ne serait pas l'opportunité de mettre les points sur les i et de relancer la saison avec un petit peu plus de certitude? Je te laisse réagir, Basto, Tonton, celui qui veut y aller.
Vas-y, Tonton.
Vas-y.
Si on perd ce match, c'est simple. On va se ramener vers un débat que vous avez lancé en début de saison et qui, moi, me répile, c'est-à-dire, est-ce qu'on doit jouer la Ligue Europa à fond ou à être... Et non, parce qu'on rigole, mais si on perd ce soir, nous, on a 6 points. Nous, on en parlera plus tard, donc pas de souci, je vais rester dans le sujet. Moi, je pense juste qu'en fait, il ne faut pas se poser de calcul. Il faut gagner ce match et derrière, advienne que pourra, tu vois, mais c'est juste que... Quand tu vois la difficulté qu'on a eue dans ce groupe, le nombre de points que chaque équipe a, faut pas se poser la question. Gagne ce soir et tu verras la suite après.
Ouais, et puis même par rapport à ce que tu disais, même si tu n'as pas le résultat favorable dans l'autre match, si tu gagnes ce soir, il y a tout un tas de scénarios pour la dernière journée où t'es pas sûr d'être qualifié, mais tu as
Non, mais tu as
vraiment
déjà
mis
la différence de but favorable à
t'as vraiment
l'égalité de
mis la
points
pièce,
avec
quoi.
l'AC Milan et Dortmund. En fait, tu as juste à gagner Newcastle et les mettre hors course, dans le sens où l'AC Milan, tu as fait 3-0 et 2-1, donc tu as l'avantage. S'il y a égalité de points, tu es qualifié face à l'AC Milan. Et Dortmund, tu as gagné le match aller 2-0. Donc si tu arrives à terminer à égalité de points avec Dortmund à la première place, c'est toi le premier. Si tu as égalité de points avec Milan à la deuxième place, c'est toi le deuxième. Bon, cependant, quand tu vois les tirages et les autres poules, et qui sont les premiers des autres poules, cette année, il faut pas terminer deuxième, les mecs. Il faut terminer premier.
Ouais,
Mais ça, c'est un autre débat.
on sait ce que ça donne en général. Mais tu vois, tout à l'heure, tu parlais du match aller, et clairement, il y a une faillite dans le duel. Et là, il y a Adrien qui nous dit, est-ce que justement, par rapport à cette faillite dans le duel, est-ce qu'il faudrait pas un milieu Vitinha-Ruiz-Elie? Tonton, je te laisse réagir. Non, Basso, je te laisse réagir du coup.
Vas-y, Baston.
Vitinha, Ruiz, Elie,
Ouais.
qui joue 6.
Bah,
Sans Ougarté, en
a
parlant de
priori,
duel.
Ruiz. A priori, Ruiz. Ou en tout cas, oui, en effet, Ougarté, je ne suis pas bien réveillé, moi, mais en tout cas, l'idée d'avoir, pour le coup, un vrai milieu à trois. Par
Bah,
rapport à Newcastle et par rapport à l'aller.
de toute façon, Luis Enrique l'a dit hier en conf, hein, il a dit on est venu pour jouer dans un 4-3-3 offensif demain. Donc il a clairement dit les choses. Ce ne sera pas le 4-2-4 pur de l'aller. Là, ce sera le truc hybride, mais plus avec un Vitinha qui se ressente. Et c'est pour ça que je pense que Vitinha a aussi préféré Ali, même si Ali peut jouer milieu, moins que Vitinha, Ali, c'est quand même plus sur l'aile. Donc c'est pour ça que privilégie Vitinha, je pense.
Mais est-ce qu'il n'y a pas la tentation, j'ai mal formulé ma question, est-ce qu'il n'y a pas la tentation justement de renforcer le milieu de terrain? Parce que clairement, rappelons-nous du match aller, ça a été un secteur extrêmement défaillant que Newcastle s'est particulièrement bien exploité.
Bah, ça a été répondu. On dit il y a Vitinha qui sera là, il n'était pas là à l'aller.
Oui, mais si tu le fais jouer ailier ou si tu le fais jouer milieu, c'est pas tout à
Ah,
fait
bien
la même
venir, Luis
chose.
Enrique a dit que ce sera en 4-3-3, c'est ce que je te dis.
Oui, mais je suis en train de te
Donc
parler sur le papier. Indépendamment de ce que Louis Enrique a fait, est-ce que toi, tu penserais que ça serait quand même préférable par rapport à Newcastle là? Putain, j'ai plus tard pour
bah,
avoir une réponse à ma question.
on le répète depuis 3 mois à chaque live, donc oui, je
Ok,
vais pas
d'accord, ok. Bon, bah, d'accord, je pourrais pas débattre sur la question. Adrien, je suis désolé, hein, ils sont particulièrement récalcitrants, ils veulent pas donner
Lui,
les
moi,
leurs.
j'ai rien dit.
Ah, bah vas-y, tonton, alors.
Non,
Ouais,
en
il est
soi,
compliqué, Basto, ce matin, il s'est
très,
réveillé
très,
de
très.
mauvais.
Il s'est levé du pied gauche.
Salut,
Mais non,
Mister.
j'allais dire justement, vis-à-vis de ce milieu, je ne sais pas pourquoi, hein, je peux me tromper, mais moi je vois en fait genre un Ugarte en 6, un Ruiz au milieu, et soit Vitinha, soit Ali en fait pour la troisième place, dans le sens où bah, Ruiz est vraiment un 8, littéralement. Et en fait j'ai plus l'impression que le profil offensif va se disputer entre Vitinha et Ali, et que c'est plus Ugarte et Ruiz qui vont être maintenus jusque-là. Après je me trompe peut-être, tu vois.
C'est assez... Après, il y a l'argument qui est vrai, qui est que mine de rien, et on l'a vu sur quelques matchs cette saison, alors c'est sûr que Ugarte, tu ne peux pas t'en passer pour un match comme ça, c'est un no-brainer, mais en tout cas, on a un Ruiz qui en 6 apporte certaines convictions
Bah,
qu'on n'a pas avec Ugarte, quoi.
il y a une complémentarité au final entre les deux, dans le sens où Ruiz a le niveau technique pour jouer à ce poste que Luis Enrique demande, que n'a pas Ugarte, mais par contre Ugarte, il a tous les autres registres du jeu au poste de 6 que n'a pas Fabián Ruiz en fait.
Et
Donc
ouais,
je me
je
dis que
comprends.
justement, les deux pour moi vont être alignés ensemble parce que tu aurais une complémentarité.
Bah, on l'a vu contre Monaco, en tout cas cette complémentarité à avoir avec plus de pression, ce que vaut Ruiz ce soir avec plus de pressing. Mais...
Alors on va parler de la dimension Parc des Princes. Est-ce que pour vous, ça va avoir un impact? Je te laisse y aller, tonton.
Oui, en soi, et je rajouterais même le côté, tu sais, un peu, on est piqué et on est au bord du ravin. Le PSG, j'ai remarqué, genre en Ligue des Champions, on adore être au bord du ravin et recevoir à domicile. Genre dans ces situations-là, on est pas mal. Dans le sens où je vais m'expliquer. Le PSG Barcelone de 2017, quand on me dit que Thiago Motta et Thiago Silva sont absents et que c'est Kimpembe et Rabiot les titulaires, je suis comme ça. Pourtant, on fait l'un des meilleurs matchs du PSG sous QSI en Ligue des Champions. Le PSG Manchester de 2019 au match aller où on gagne à Old Trafford 2-0, il me semble que l'attaque c'est Draxler, Cavani et Di Maria. Neymar et Mbappé sont tous les deux absents. Et souvent le PSG, quand il se retrouve comme ça dans ces situations où bah là, t'as vu, il va nous manquer Marquinhos et Warren Zaïre-Emery quand même qui pèsent lourd dans la balance, mais j'ai l'impression que finalement ce PSG, il n'est jamais aussi fort que quand il est au dos du mur et quand il n'a pas le choix d'être performant. Et là, il se trouve que surtout, bah, il est à domicile. Si encore on joue à l'extérieur, tu pourras avoir le facteur de le Paris Saint-Germain, ben, peut, on va dire, allez, comment on peut le dire poliment, va se liquéfier et ne pas réussir à faire une performance de son standing comme il a fait à l'AC Milan et à Newcastle cette saison. Mais là, tu reçois. Et quand tu vois justement, ben, à l'image du match d'avant contre Monaco, qui est quand même une sacrée bête noire du PSG en Ligue 1 Monaco, il faut le rappeler, ben, Ça s'est pas vu. Et à domicile, même si on a quand même eu du mal dans certains moments du match, tu vois, finalement on a réussi à fatiguer l'adversaire à l'usure et c'est devenu vraiment en deuxième mi-temps, ça a été compliqué pour eux de retenir les buts. Donc je me dis qu'on a plus de chances en tout cas contre Newcastle dans ce genre de situation que si on devait aller chez eux avec la confiance, comme on l'a fait au match aller.
Bah, soit je te laisse réagir, le parc,
Oui,
c'est sûr.
bah, de toute façon, il suffit de regarder nos pourcentages de victoires à domicile, à l'extérieur. C'est encore plus, nous, que d'autres clubs, significativement différent. Donc oui, le Parc a un rôle à jouer, au-delà du fait qu'on a peut-être peur aussi à l'extérieur. Mais le Parc, évidemment, bah, l'habitude de jouer à domicile, la connaissance du terrain, le confort, et évidemment le public aussi, qui peut peut-être pousser en début de match pour mettre la pression sur Newcastle. Ou en fin de match, si on en a besoin, évidemment, c'est des petits détails qui peuvent faire la diff. D'ailleurs, j'espère que les supporters ne feront pas, entre guillemets, les cons, parce qu'un seul fumigène tiré aujourd'hui, c'est 8 clous en huitième. Donc, ce serait un peu dommage de jouer sans public en huitième de finale de Ligue des Champions. Voilà, mais oui, je pense que le Parc fera la diff.
Mais vous nous dites qu'on est vraiment fort au parc. Du coup, comment ça se fait qu'on saute souvent en huitième, en quart?
Parce qu'il y a match retour. Et que souvent il est à l'extérieur. Regarde le Real Madrid il y a 2 ans.
Pas
Non,
que.
enfin.
Après United, là, on perd au Parc alors qu'on gagne 2-0 à United, ça arrive.
C'est l'exception qui confirme la règle, Basto.
Après, on perd Munich l'année dernière au
On va
Parc.
arrêter
Voilà.
le débat qui peut-être fait mal au crâne et on va revenir un petit peu plus sérieux. Est-ce que pour vous, Newcastle est vraiment moins bon à l'extérieur?
Ben,
Bah
c'est un
oui.
fait. En Ligue des Champions, c'est un fait en tout cas. Hein. Déjà,
Bah,
ils ont
je te
gagné
laisse en
qu'un seul
parler.
match. Excuse-moi. Ben, ils ont gagné qu'un seul match déjà en Ligue des Champions. C'est contre nous et à domicile. Mais à Milan, ils ont fait 0-0. Dortmund, ben, ils sont plutôt fait tartiner en fait. Donc, du coup, ben, de la même manière que nous, finalement, Newcastle, c'est serein à domicile, mais à l'extérieur, c'est compliqué.
Ça fait la transition de la future question, Seb, je crois. Parce qu'on est un peu en train d'entamer ça. C'était, est-ce qu'on est inquiet que Newcastle ait mis 4-1 à Chelsea ce week-end et fait un gros match? Est-ce que ça
Bah,
nous inquiète?
si tu veux, enchaîne. Si tu veux, enchaîne.
Prochaine, parce que c'est lié. Newcastle, c'était à domicile contre Chelsea. Et comme l'a dit Tonton, et c'est pas qu'en Ligue des Champions, Newcastle est 17e des équipes à l'extérieur en championnat anglais et 3e à domicile. Donc Newcastle a vraiment une équipe qui met des 4-0, etc., etc., chez eux en battant des gros. Et à l'extérieur, tu regardes leur dernière perf, ils ont perdu 2-0 à Brentford, par exemple. Donc, tu as vraiment Dr. Jekyll, Mr. Hyde entre Newcastle à domicile et à l'extérieur. Ce n'est pas du tout la même équipe. Donc, le fait que Newcastle ait battu Chelsea 4-1, moi, ça ne m'inquiète pas puisque c'était à domicile.
Alors, très rapidement et pour pas trop le faire, n'hésitez pas les gens, il y a quelques personnes qui nous rappellent dans le chat, le like, c'est tout bête, hein, la dernière fois je l'ai trop fait, donc là je le fais tout
T'inquiète
le
pas,
temps.
Adria, je sais comment faire.
Et et,
On fait comme
et,
ça.
et, et c'est juste... Non, ça non, ça, enlève ça, ça c'est Nick, c'est pas moi. Et c'est juste, bah voilà, ça nous aide pour le référencement, vous c'est un petit geste, pas, vous le faites, et ça nous aide et on va enchaîner. Bah du coup, tonton, alors, je peux te laisser réagir là-dessus, et sinon, faut revenir un petit peu, ça nous parle pas mal dans le chat, du débat Livitinia, mais d'abord je te laisse réagir, et après on reviendra sur le milieu, parce que ça, on parle pas mal mine de rien dans le chat. Donc, qu'est-ce que toi, le Chelsea Newcastle, t'as rendu inquiet?
Pas tant que ça, dans le sens où Chelsea est une équipe qui n'est pas très en forme depuis bah, l'arrivée de Boehly en Angleterre. Faut dire ce qu'il y a, depuis que Boehly a officiellement repris le club. Il y a combien de victoires de Chelsea en championnat, sérieusement, les gars? 11? 11 en un an? Je force un peu, hein, mais je pense qu'on n'est pas si loin. Moi, je pense juste que bah, il faut voir qui t'affronte, dans quel contexte tu les affrontes. Et je veux dire, de la même manière que Newcastle vient de taper, on va dire ce qui est un Chelsea qui est malade. Si nous, avant d'affronter Newcastle, on avait tartiné Lyon, je pense que les gens de Newcastle, ils diraient, bon, bah, Lyon, ils sont un peu terminés en ce moment. Donc, c'est pas ce match-là qui doit être une référence pour se poser sur le style du PSG. Et Newcastle, c'est la même chose. Je veux dire, je ne vais pas me référer au match de Chelsea, qui est une équipe qui n'est pas forcément en forme cette saison.
Il venait de battre Tottenham et de faire 4-4 contre City, je crois. Non, il
Non,
perd
mais.
contre City au final? Je sais plus.
Alors, ils ont fait 4-4 contre City, ils ont
4-4.
battu Tottenham à 11 contre 9. Donc.
Oui.
Oui, ils ont eu un état de forme récent assez intéressant de Chelsea, mais si tu fais le compte du nombre de victoires de
Non,
Chelsea
bien
en
sûr.
première
Ils
ligue
sont
depuis
vierges du
l'arrivée de Boehly,
championnat.
c'est effrayant. C'est vraiment très très effrayant. Donc c'est pas comme si tu me disais que tu affrontes le Chelsea, je sais pas, d'Antonio Conte, de José Mourinho, des années 2000. Si tu me parlais du Chelsea Prime et que Newcastle avait mis 4-1 à ce Chelsea-là, je te dirais ouais, là il y a de quoi s'inquiéter. Newcastle, ils sont pas là pour rigoler, mais il faut quand même, tu vois, mettre un peu d'eau dans son vin, je pense, tu vois, être un peu juste.
Alors, très rapidement, je vous laisse apprécier et le pseudo et le commentaire. Les deux vont très très bien ensemble. Et Mbappé et Colomboigny, je te suggère, enfin, si tu en as envie,
Objectivité.
si tu n'as pas vu le début du live où on parle pas mal de Colomboigny, et n'hésite pas à check ça quand tu auras le temps.
Adrien
Ouais, et
Moigny.
donc ça parle pas mal. Enfin, c'est un sujet qu'on a abordé, qu'on réaborde et à longueur de reprise. Bon, moi, comment on touchait? Parce que ça a un impact ce soir. C'est la question, c'est Lee ou Vitinha? Indépendamment de ce que va faire le coach, parce qu'on sait plus ou moins avec le temps de repos et la manière, les temps de jeu, a priori, ça devrait être Lee. Enfin, ça serait vraiment une énorme surprise que ce soit pas Lee. Qu'est-ce que vous pouvez vous dire? Qu'est-ce que vous pouvez dire sur justement soit l'un, soit l'autre? Je te laisse commencer, Vasto.
C'est Vitinha, hein. Selon les médias en
C'est
unanimité,
Vitinha?
c'est Vitinha.
Mais il était en
C'est
conférence de
Vitinha qui a
presse,
annoncé
donc.
par toute la presse, sans, ils sont
Ah
sûrs de. On verra bien, mais
ouais. C'est
ça ne m'étonne
surprenant.
pas tant que ça. Ça m'étonne pas tant que ça par rapport
Oui.
justement à ce qu'a dit Enrique en conf de presse où il dit qu'il veut avoir un 4-3-3 offensif. Donc il parle vraiment d'avoir trois milieux. Et comme je le disais tout à l'heure, Lee, un peu moins quand même ce profil de milieu, même s'il peut jouer au milieu, il reste plus sur l'aile que le fait un Vitinha. Là, il veut peut-être vraiment avoir plus du cœur de jeu renforcé. Et aussi, tout simplement, parce que Vitinha, ce rôle hybride, le connaît mieux que Lee, qui a aussi beaucoup joué à droite depuis le début de saison, qui a joué faux neuf à Reims, qui finalement a peu eu ce rôle de relayeur à la place de Vitinha. Et dans un match comme ça, coup près contre Newcastle, il n'a peut-être pas assez d'automatisme, alors que Vitinha les a. Donc je comprends Enrique là-dessus. On a aussi vu que Lee était capable de faire des très bonnes entrées en jeu, peut-être aussi une cartouche pour les 30 dernières minutes. Donc moi, ça m'étonne pas du tout.
Tonton.
Bah, tu peux le prendre des deux côtés, en fait, dans le sens où, bah ouais, Vitinha, il a été mis en conférence de presse, donc dans la logique des choses, tu vas pas faire venir un mec pour l'asseoir sur le banc en conférence de presse, sinon ça n'a pas trop de sens. Mais en même temps, ils n'ont pas tout à fait, comment dire, les mêmes profils tous les deux, dans le sens où, pour moi, Lee est plus offensif que ce qu'est Vitinha. Vitinha, pour moi, en fait, j'ai l'impression que quand on le met dans ce rôle au milieu de terrain, on lui demande d'être plus offensif que ce qu'il n'est réellement. Donc moi, dans cette logique-là, j'aimerais voir Lee utilisé dans ce rôle plus offensif au milieu. Cependant, ben, quand on a joué dans ce système-là avec un milieu à 3, ben, Vitinha il a sorti sa meilleure performance de la saison contre Dortmund. Donc, c'est compliqué de jauger. Dans la logique, en fait, tu dois faire jouer les deux parce que finalement, pour moi, Vitinha joue trop haut que ce qu'on lui demande, enfin, par rapport à son vrai profil. Pour moi, Vitinha devrait plus être 8 à côté d'Ugarte et Lee en 10. Mais du coup, moi, j'ai plus l'impression qu'on se dirige vers un Ugarte, Ruiz, Vitinha. Mais je me trompe peut-être encore, tu vois, je prétends pas
A
avoir la science
priori, c'est
infuse.
ça. Enfin,
Alors, très rapidement, on dit bonjour à notre poteau fan de l'OW. Hein, c'est un nouveau club. Je ne sais pas si vous connaissez, n'hésitez pas à checker.
en tout cas,
Et
pour le référencement, je veux des mecs comme lui tout le temps, hein, qui spamme le chat,
aujourd'hui, c'est match de
pose ton
Paris.
like et t'es
Aujourd'hui,
parfait.
c'est match de Paris.
Pas deux équipes
Aujourd'hui,
en crise,
oh,
jeudi.
je finis ma phrase. Aujourd'hui, c'est match de Paris. Et donc, inévitablement, il est supporter de l'OW. Et jeudi, ça sera match de Ligue Europa. Et là, il redeviendra supporter de l'OM. Tout est une question de timing. Tout est une question de timing. Ouais, bah, sur Vitinha, après, la question, c'est pourquoi on en parle autant, c'est qu'au fond, aucun des deux n'a encore amené complètement les certitudes. On a des envies, on a des accointances, mais lequel des deux, on est en train de se dire, OK, lui, il a gagné sa place sur le terrain. Pour l'instant, on n'en est pas tout à fait là, et c'est pour ça que, mine de rien, cette question, elle continue de revenir et de revenir et de revenir et de revenir. Maintenant, on va parler d'un joueur, et je vais lancer, je crois que j'ai lancé Basto avant, mais je crois que je vais lancer quand même Basto sur ça, parce que bon, c'est pour lui, c'est un vrai sujet, et c'est voilà, on a un
Ah, oui, je
Dembélé
vois.
qui fait peut-être son match référence,
Peut-être, non, c'est
Dembélé
sûr.
qui est clairement qui a la palme du joueur le plus déséquilibrant et le plus frustrant. Comment tu le sens ce soir, Basto?
Bah, il est sur une bonne lancée, en sortant notamment sa meilleure performance. Et au-delà de son but, je disais déjà dans l'écran que c'était sa meilleure performance qu'il était en train de faire. Et j'en ai déjà parlé à Tonton. Moi, quand je parlais de balance positive, négative, et que je disais qu'elle était trop souvent négative, et même trop largement négative sur le raté, la réussite. Contre Monaco, il a des passes ratées à 1 mètre, qui sont énervantes, qui sont frustrantes, mais par rapport à tout ce qu'il fait, évidemment, là, la balance, elle est ultra positive. Donc, quand on a un Dembélé comme ça, évidemment que Dembélé fait partie des joueurs les plus intéressants au monde dans ce profil-là. Donc on espère qu'il va continuer sur cette lancée, qu'il trouve confiance et surtout qu'il ne se blesse pas, ce qui est bien parti pour le moment. Donc on va essayer de ne pas lui porter la choumoune à Dembélé. Mais voilà, et puis on connaît sa relation aussi avec Hakimi qui fonctionne toujours très bien. Donc
ouais. Qui se bonifie même.
De quoi ?
Qui se bonifie même.
Exactement. Donc voilà, Dembélé, ça fait partie des joueurs que tu sais qui sont, comment dire, attachants et chiants, les fameux attachants. Dembélé, c'est tout à fait ça. Après, un des plus déséquilibrants au monde, oui, hein. Il y a des Doku à City par exemple, il y en a d'autres, mais il fait partie du top 5 des joueurs de débordement qui sont les plus déséquilibrants au monde. Après, pas les plus décisifs, mais c'est autre chose.
Et du coup, est-ce que comme Mohamed, tonton, tu dirais que à l'arrivée, Dembélé, c'est le meilleur joueur de devant?
Bien sûr. La question se pose dans le sens où, si tu parles de performance, Mbappé est le meilleur buteur de cette équipe. Et bon, finalement, quand on connaît l'attente qu'on a vis-à-vis de Mbappé, on est dans une certaine logique qu'il le soit. Cependant, quand tu vois les performances de Randall et Ramos au poste de 9, qui ont quand même un peu de mal, on va pas se cacher, quand tu vois les entrées de Barcola et Lee, qui sont intéressantes, mais qui restent des entrées. Dembélé, lui, on va dire ce qui est beaucoup de difficultés au début, parce que forcément, pas de réussite, pas de but au début. Il en a marqué qu'un seul d'ailleurs, hein, depuis qu'il est arrivé. Même les passes décisives, c'était pas ça. Mais bon, moi, je traduisais ça un peu par un manque de chance en expliquant qu'il avait beau pourvoir autant de ballons dans la surface qu'il voulait, si ça vendangeait devant, il n'aurait pas de passes décisives. Cependant, même dans l'attitude, ça va mieux, dans le sens où, déjà, on parle d'un mec qui a un potentiel de dribble et de passes décisives par match qui est affolant. Le mec, il a le ballon, à chaque fois qu'il a le ballon, il se passe quelque chose. C'est un mec, la première touche de balle, il y a quelque chose. Le mec, il peut te lober quelqu'un sur un contrôle de balle parce qu'il va bien taper le ballon avec le pied sous le ballon, hop, il va te lober le défenseur et derrière, il va accélérer. Il va faire les doubles contacts, il va dribbler en permanence. Il est constamment dans l'instinct et j'aime énormément ce joueur pour ça. Donc si Dembélé est dans les dispositions qu'il avait à Monaco ce soir, moi, je m'appelle Dan Burn, déjà, je me mouille la nuque. Je demande à Bruno Guimaraes de me filer un coup de main et je demande à l'autre Gordon ou Barnes qui court à plus de 30 km/h de ne pas lâcher Dembélé du match. Parce que Dembélé, en fait, si tu vas en un contre un en défense, t'es mort. Si tu vas en deux contre un contre lui, s'il est en forme, t'es mort. Et même si t'arrives à trois contre un, tu peux être mort. Donc si Dembélé, il est dans l'état de forme qu'il a à Monaco et à Montpellier, qui sont pour moi les deux meilleurs matchs qu'il a fait depuis qu'il est arrivé au PSG, je m'inquiète sincèrement pour Dan Burn. Garantie qu'il fasse ce match.
Mais Burn est parfait. Ça fait partie des forfaits. Je crois que c'est un jeune de 17 ans qui sera face à Dembélé ce soir.
Ah, c'est Livramento. Je crois que c'est Livramento, ouais. En effet, tu as raison. Alors Livramento, il est beaucoup plus rapide que Burn, donc il aura moins de problèmes sur le sprint. Cependant, oui, est-ce qu'il a l'expérience pour... faut dire ce qui est, quand tu es défenseur, je parle pour ceux qui sont dans le chat, peut-être qu'il y en a qui jouent au foot. Les gars, quand vous êtes défenseur, que vous avez un ailier du profil de Ousmane Dembélé, il va dribbler une fois, deux fois, trois fois, il peut faire genre... 5 fois des dribbles en 15 minutes.
Mais tu as déjà dit ça contre il y a 2 minutes, mais il y a une problématique quand même. C'est qu'on a un Dembélé qui, effectivement, dynamite toutes les défenses de Terre et de Navarre et de je ne sais pas d'où encore. Mais on a aussi un Dembélé qui a mis son premier but après je ne sais même pas combien de tentatives. Donc, si tu veux, si le mec, il fait les 3 dribbles dont tu parles pour ensuite perdre la balle, quelle est l'utilité ?
Moi, tu me parles de buts, je m'en fous des buts chez Ousmane et je l'ai répété. Si Ousmane, il fait le même match que contre Montpellier où il ne marque pas, mais il est présent sur chaque but qu'on marque et qu'il a une vraie influence dans le jeu, qui dynamite, qui provoque et que justement, ces dynamitations et ces provocations, elles ont un intérêt parce que ça apporte des choses derrière, je m'en fous. Ne marque pas, hein. Ne marque pas pendant 5 matchs si tu fais des matchs comme Montpellier. Moi, ça me va.
Alors, très rapidement, Voyotala, n'hésite pas à la reformuler parce que je ne suis pas sûr de bien la capter, mais t'inquiète pas, je l'ai noté, mais n'hésite pas à la reformuler pour le coup et on la posera en fin de live. Mais on la posera de toute façon en fin de live. Du coup, je me suis un petit peu perdu avec ça. Sur Dembélé, oui, il est à la fois frustrant et génial, tout a été dit et on attend quand même qu'il soit un petit peu plus décisif pour définitivement valider ça. Parce que les pertes de balles sont trop nombreuses et c'est ce que disait Basto, c'est que pour l'instant, le ratio n'est pas complètement à son avantage. Maintenant, c'est juste une histoire de 10%, s'il perd 10% moins la balle, où il met 10% de buts de plus, tout à coup, il sera complètement indiscutable et il n'y aura strictement rien à redire. Alors là, il y a un message sur lequel Nyx nous demande de réagir, qui va taper dans la fibre romantique, notamment... on va commencer par Tonton, parce qu'on a commencé avec Basto 2-3 fois, mais c'est Basto qui va, je pense, s'enflammer. Tonton, je compte sur toi pour le descendre en prévision. Est-ce qu'il vaut mieux pas finir troisième et aller en Europa et faire un gros parcours plutôt que deuxième et se faire défoncer par City, le Real ou le Bayern en huitième?
J'ai vraiment pas envie de jouer cette compétition parce que déjà je suis obligé de payer un abonnement supplémentaire pour voir le PSG jouer et j'ai la flemme. Je veux dire, les gars, on abonne déjà, on prend un abonnement pour la Ligue des Champions, on a un abonnement pour la Ligue 1. Il va falloir qu'on en prenne un pour la Ligue Europa, j'ai déjà la flemme. Non, c'est pour être plus sérieux sur le sujet. Quel avantage de jouer la Ligue Europa? Quel avantage même de la gagner, en sachant que financièrement parlant, même si tu la gagnes, tu vas gagner autant d'argent qu'en ayant joué les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Si tu ne gagnes pas, c'est le chambrage assuré pendant 10 ans parce que le PSG a fini en Ligue Europa et il ne l'a même pas gagné. Demande aux Barcelonais l'expérience de la Ligue Europa si on ne les chambre pas par rapport à ça. Et même si tu la gagnes comme un Chelsea après avoir été éliminé en poule et que derrière tu la gagnes, ben on va dire encore heureux en fait vu le standing de ton club. Donc moi en fait je ne vois pas l'intérêt de jouer une compétition ben déjà qui en termes d'horaire va m'embêter, qui en termes de diffusion va encore plus m'embêter. Enfin, moi je préfère attraper un gros à la limite et au moins tu vois vite les limites de cet effectif et tu peux les corriger parce que ça a l'air d'être un peu la tendance au PSG cette saison. Que bah, être dans une illusion de ah bon, on est éliminé de la poule, mais bon, hein, on a gagné la Ligue Europa, la saison n'est pas si ratée que ça. Enfin voilà, mais moi je le vois de cette manière-là.
Mais du coup, tonton, ça te ferait pas plaisir de mettre la race à Thiago Thiago sur un match d'Europa
de bah, on joue la Ligue 1, enfin hein, je sais pas, est-ce que le Real Madrid a envie d'aller en Ligue Europa quand le Barça y est, histoire de les affronter, de les démonter? Non, ils ont envie de jouer la Ligue des Champions, c'est la même chose. Moi je me procure pas des autres, je veux dire, si l'OM derrière ils vont gagner la Ligue Europa, bah, tant mieux pour eux. Mais moi j'ai pas envie d'aller la jouer cette compétition parce que même si on la gagne, on va être honteux.
Mais du coup, tu ne trouverais pas sympathique, juste même ne serait-ce que de leur enlever cet espoir-là, en fait?
Non. Il y a déjà des équipes suffisamment balèzes comme Liverpool pour les empêcher d'aller
décrocher.
Non, mais j'ai aucun second degré sur le sujet. Il n'y a pas de Ligue Europa qui tient.
Ok, d'accord, ok, j'ai compris. Basto, toi, ouais. Sur le troisième Europa et un très beau parcours en Europa ou deuxième et se faire sortir en huitième, tu préfères quoi?
Quand Chelsea met 4-1 en finale à Arsenal, je peux te dire qu'ils s'en souviennent quand même, les supporters d'Arsenal comme de Chelsea. Hein. Y a pas... Là, on a Liverpool. Je suis pas sûr que si Liverpool gagne pas l'Europa League, que ce soit une honte pour eux, comme tu dis, tonton.
Non, mais eux, ils n'ont pas été éliminés de Ligue des Champions, Liverpool. Ils n'ont pas été éliminés en poule de Ligue des Champions. Ils ont été directement qualifiés en Ligue Europa. Ça.
Après,
si tu commences la Ligue Europa, je dis pas, c'est autre chose.
De toute façon, si tu te prends encore, parce que là, la question, c'est se faire défoncer. Donc, si tu prends 4-0, 3-0 par un gros, tu vas aussi te faire humilier.
Bah, tu vois les limites. Bah, tu vois vite les limites et ça permet de faire descendre la température à tout le monde et qu'il y en a qui arrêtent de se prendre pour
Après, c'est un peu la mauvaise année pour me poser cette question, Arias. Parce qu'en fait, moi, j'ai toujours dit que c'est dans les années où j'avais des coachs où j'avais pas d'émotion. Tu vois, je me disais plutôt que de se faire encore humilier en 8e sans prendre aucun plaisir devant nos matchs. Avoir un beau parcours en Europa League où on joue des équipes sympas, où on fait demi-finale, finale, voire on la gagne, ça va un peu égayer la saison. Mais cette année, on est dans un renouveau et dans une année de transition où on prend plaisir à voir les matchs, globalement. Donc, ça n'a plus vraiment de sens. Il y a un an, il y a deux ans, il y a trois ans, il y a quatre ans, il y a cinq ans, enfin quasiment toutes les dernières années avant Emery, je t'aurais dit oui, je préfère faire un beau parcours en Europa que se faire humilier en huitième de Ligue des Champions. Cette année, un peu moins. Puisqu'on a envie de regarder ces matchs-là. Donc, on a déjà l'émotion qui est par le jeu et pas forcément par les résultats bruts. Donc, c'est plus autant nécessaire pour moi. Donc, cette année, je préfère finir deuxième de Ligue des Champions cette année, ce qui n'aurait pas été le cas les dernières années.
Bah, j'aime faire l'avocat du diable, parce que mine de rien, l'Europa League a la mauvaise presse. Mais passer les demi-finales, ce sont de très, très beaux matchs en général. Ensuite de ça, le Paris Saint-Germain en Europa League, tout le monde dit oui, c'est un truc oublié. Ben non, ce serait des matchs qui seraient regardés. Et ce que dit tonton, c'est ce que disait tonton sur oui, ben, tu gagnes l'Europa League, ben, tout le monde va dire oui, c'est du standing du Paris Saint-Germain, etc., etc. Je pense que ça, c'est une analyse froide parce que dans les faits, si tu fais une belle demi-finale contre une belle équipe et que tu gagnes et que tu te retrouves en finale, va y avoir une attente des supporters et que tu la gagnes, ben c'est tout bête. Hein. Mais tu mets la première Coupe d'Europe depuis très longtemps au palmarès du Paris Saint-Germain.
Bah, autant jouer la Conférence League, hein, c'est une Coupe d'Europe aussi, on l'accroche et au moins on aura une Coupe d'Europe. Enfin, je sais pas, moi ça m'intéresse pas.
On n'a que deux en France, on est rien pour dénigrer une Coupe d'Europe. Même une conférence.
Bah, vas-y, on joue la Conférence League et on la gagne, et comme ça on en aura une, il n'y a pas de problème.
Pourquoi pas?
Non, moi ça m'intéresse pas. Désolé, mais moi ça m'intéresse pas.
Bon, c'était le petit moment trollesque et on dit bonjour à l'OVNI qui peut pas commenter. C'est un plaisir de t'avoir avec nous comme d'habitude. Et donc, il y a une autre question que Nyx, mais d'une manière générale, c'est quelque chose qui est souvent avancé, souvent discuté, c'est Skriniar. Skriniar qu'on a du mal à retrouver. On se demande est-ce que c'est sa blessure ou est-ce que c'est l'organisation du jeu? Comment expliquer sa faiblesse relative? Et la question que j'ai envie de vous poser, et donc on va commencer par Basto cette fois, c'est est-ce que vous pensez que Skriniar peut retrouver le niveau qu'il avait à l'Inter avant sa blessure, ou est-ce que vous le voyez rester titulaire après le retour de Nuno? Et est-ce que tu le vois rester titulaire après le retour de Nuno?
Déjà, pour répondre à la première question, bah Skriniar a plus ou moins un peu répondu. Il a dit que la Serie A était plus tactique que la Ligue 1, mais qu'en Ligue 1, il y avait beaucoup plus de duels à jouer, de 1 contre 1, que ce soit en rapidité ou en duel aérien. On sait que c'est pas le point fort de Skriniar, le duel aérien notamment. On peut le voir. Tonton ne me contredira pas là-dessus. Donc, il a des spécificités d'un championnat qui sont moins faits pour lui que la Serie A. Maintenant, il a aussi beaucoup joué de matchs axe gauche qui est pas son bon poste, il est meilleur en axe droit. Monaco, on a pu le voir en axe droit, mais c'était la première fois qu'il était vraiment aligné avec Lucas Hernandez aussi proche de lui dans cette position-là. Donc il s'était pas encore coordonné, comme on en a parlé au live samedi. Il y a eu des Skriniar qui a, par le moment, mal joué le hors-jeu alors que Lucas le jouait, mais ça, c'est un problème de complémentarité. Enfin, complémentarité, non, c'est un problème de rythme qu'ils aient des matchs ensemble pour
De
mieux
travail.
s'apprendre, et c'est pas un problème de qualité de Skriniar. Donc il a des circonstances atténuantes. Il fait pas un début de saison resplendissant, mais je trouve qu'il fait pas non plus un début de saison si catastrophique que certains veulent le dire. Donc oui, on espère que Skriniar retrouve son niveau, c'est possible. Après, avec retour de Nuno ou pas, avec retour de Nuno, je pense que ce sera Lucas axe gauche, et même enfin ce sera entre Lucas et Kimpembe, mais avantage Lucas, et donc ça jouera avec Marquinhos pour Skriniar. A priori, Skriniar sera remplaçant, mais il y a tellement de rotation et tellement de temps de jeu qu'il aura l'occasion. Mais oui, donc avec le retour de Nuno, je pense que Skriniar perd sa place de titulaire.
Et toi, tonton, au-delà de réagir, est-ce que tu es fan de voir Robocop en train de courir chaque semaine sur les pelouses de Ligue 1?
Non, mais encore une fois, c'est une question d'utilisation. Skriniar, quand il jouait à l'Inter, il jouait dans une défense qui jouait beaucoup plus bas. Il n'avait pas à courir 40 mètres derrière lui. Et là, en fait, moi, Skriniar, ce que j'aime bien chez lui, c'est sa propension au duel. Il est très bon sur les duels au sol, en tout cas, tu vois, genre sur le marquage, ce genre de choses. Après, c'est clair que si tu demandes à Skriniar de jouer dans une défense à 4, haut sur le terrain, de jouer sur son faux pied, hein, parce qu'on le met axe gauche en lui demandant d'être bon au pied, donc du coup il se retrouve souvent sur son pied gauche et bonne chance pour ça, bah forcément ce sera compliqué. Forcément ça va continuer d'être compliqué. Mais si tu demandes à Skriniar bah, d'utiliser ses qualités et que tu l'utilises de la manière dont il joue, bah là bizarrement je pense que tu auras moins de problèmes. Donc je pense qu'à terme quand Nuno Mendes va revenir titulaire et qu'il sera plus blessé, bah oui Skriniar a de quoi s'inquiéter parce que techniquement il n'a pas forcément le niveau que demande Luis Enrique pour un défenseur central. La preuve, Skriniar a été recruté avant que Luis Enrique arrive. On ne s'attendait pas à voir Luis Enrique comme coach à ce moment-là quand on recrute Skriniar. Et si Luis Enrique avait été choisi dès janvier, je ne pense pas qu'il aurait pris Skriniar même libre. Parce que justement, ce n'est pas forcément un profil dont il va raffoler. Après, ça ne veut pas dire que Skriniar fait que des mauvais matchs. Au contraire, comme je dis, moi, j'aime beaucoup ses duels et je trouve que c'est un défenseur dur sur l'homme comme je l'aime. Mais si tu veux passer à un style de jeu où tu as besoin de joueurs techniques, où on se plaint un peu de la tactique d'un Donnarumma, on se plaint de la technique d'un Ugarte, bah Skriniar, il passe pas la casse là-dessus et logiquement, bah, ce sera le remplaçant de Marquinhos.
T'as vu comment il brille, mon petit Potores à Aston Villa? Lui, il aurait été bien dans le jeu d'Enrique.
Mais pourquoi? Mais
Mais
attends, mais Potores, mais moi j'ai cherché
justement,
beaucoup mieux cet
mais
été.
justement, justement, messieurs, la question c'est est-ce que vous avez envie de jouer dans une charnière avec deux profils libéraux et ainsi vous priver d'un stopper?
Bah ouais, tu peux.
Mais j'ai jamais dit que tu peux pas, je te demande d'étayer.
Moi, si tu me demandes, bah, avec ce qui se fait actuellement, dès que tout le monde sera en forme, hein, je dis bien parce qu'il y a encore beaucoup de blessés, moi j'aimerais bien faire une défense Nuno Mendes, Lucas Hernandez, Marquinhos, Hakimi, tout simplement, en attendant de voir d'autres choses, parce que j'imagine que pendant le mercato d'été, il va y avoir du mouvement. On en rediscutera plus tard d'ailleurs. Mais voilà, je pense qu'actuellement, dans l'état des choses, si tu te fies à la philosophie de Luis Enrique, je pense que tu fais une doublure Lucas Hernandez, Marquinhos, parce que bah, les deux ont le niveau technique pour être défenseur sous Luis Enrique. Et en plus, bah, Lucas Hernandez, on va dire, il a ce supplément de grinta qui fait des fois Marquinhos et qui lui ferait beaucoup de bien d'avoir à côté de lui.
Et sinon, bah donc, bah justement, la question de Vojtala, que moi j'avais presque compris, mais pas tout à fait, et comme Bastos l'a parfaitement compris, bah, il va y répondre.
Ok, donc lui il parlait de mettre Hakimi à la place de Ruiz ou Emery et donc de mettre Mukiele arrière droit. Je pense pas que ce soit une bonne idée dans le sens où Hakimi est déjà plus ou moins milieu dans certaines situations avec notre jeu hybride. Hakimi n'est pas vraiment défenseur, on a les trois centraux qui sont, enfin, on a un arrière gauche mais qui est hybride central et on a Hakimi qui du coup est hybride milieu déjà. Donc il a déjà ce rôle de milieu. Si tu le mets vraiment au milieu, du coup tu te retrouves avec quatre vrais DC derrière. Enfin, Mukiele peut jouer arrière-droit, mais il a aussi un profil d'essai, mais tu ne te retrouves plus avec justement ce profil asymétrique qu'on recherche. Et donc, on gâcherait un peu l'animation et derrière et au milieu, puisque tu te priverais aussi d'un milieu de plus. Donc, on a déjà du mal à ressortir la balle. Si en plus, tu en sors un pour ajouter un défenseur. Ouais, pour moi, je préfère jouer avec Ruiz en l'absence d'Emery que Hakimi au milieu.
En tout cas, 4 centraux, Deschamps, il valide. Hein.
Mais ouais. Oui, mais après, indépendamment des 4 centraux, on en repère 3 évidents ici. Et est-ce que pour vous, ça ne serait pas une solution de jouer à 3? Bon, après, là, j'ouvre un débat qui peut être un peu compliqué. Ben, on va l'oublier, je me suis un
vas-y,
petit...
Vas-y, vas-y, je vais te répondre, mais je vais citer les mots. Parce qu'en fait, on a un peu posé la question à Luis Enrique hier par rapport à son système dans sa conférence de presse. Et lui, ce qu'il disait, en vrai de vrai, aujourd'hui, les systèmes en 4-2-4, 3-5-2, personne ne démarre comme ça, c'est des systèmes hybrides. Aujourd'hui, tout le monde met une compo qui évolue en cours du match. Et il disait, quand tu vois le PSG qui démarre en 4-3-3, qui va parfois passer en 3-4-3, va parfois passer en 4-2-3-1, finalement, aujourd'hui, les schémas, ils sont très amovibles. Donc, ce n'est pas forcément le schéma qui va être utile, c'est l'animation que tu vas en faire et comment tu vas l'utiliser qui sera important au final.
Petit, alors moi, j'ai plus le droit de le faire hein, parce que je me suis fait taper sur les doigts parce que je ne le fais pas trop, mais écoutez Franck, les gens. Écoutez Franck. On est pas mal là.
Et puis d'ailleurs, faire au moins si la moitié écoutez, en live, ouais.
Si vous êtes en train au de moins. Nous écouter, on parle pas tous ensemble parce que justement, les auditeurs qui nous écoutent sur Deezer, sur Apple Music, sur Spotify, etc., si on parle ensemble, ça marche pas du tout. Donc on fait bien attention à parler séparément. Et si vous êtes en train de nous écouter sur ces plateformes, bah, merci beaucoup à vous. Et n'hésitez pas à poser aussi un petit abonnement ou je sais pas exactement comment ça se passe sur ces plateformes. Mais en tout cas, suivez-nous, ça sera un grand plaisir. Et ça parle pas mal dans le chat, bah, mine de rien, de la rumeur Lenny Euro qui est en train d'enfler. J'arrive pas forcément à retrouver les commentaires qui en faisaient référence, donc je vais pas en up. Mais ça nous parle de Lenny Euro. C'est la priorité du PSG pour le mercato d'hiver. Le Paris voudrait franchir, enfin se dépêcher pour ne pas se faire doubler sur le dossier. Qu'est-ce que vous pensez de cette rumeur? Je sais plus qui c'est celui qui veut en fait.
Bah, on a fait une super vidéo avec Bastos sur le sujet, il se trouve, tu vois, pour ceux que ça intéresse, on a fait un petit court format sur Lenny Euro et ses qualités. Bah, moi, je ne vais pas tirer la tronche dans le sens où c'est un jeune défenseur à fort potentiel qui a de l'expérience de la Ligue 1 et qui, en plus, pour le coup, a des qualités qui correspondent à nos handicaps. C'est-à-dire que bah, les points forts de Lenny Euro, c'est littéralement les points faibles qu'on a dans notre défense. Donc lui, pour le coup, malgré son jeune âge, si tu le recrutes, il répond à une problématique d'équipe. Donc moi, je suis pour le recrutement de ce type de joueurs qui répondent à une problématique tout de suite quand tu les recrutes. Un peu à l'image d'un Ugarte quand il arrive. Mais du coup, oui, il va y avoir concurrence, comme tu l'as dit, le Real, le Bayern, enfin, beaucoup de clubs sont intéressés par ce joueur très intéressant par rapport à son jeune âge et son profil. Mais il faut dire ce qui est-ce que Lille a un intérêt, ça fait plaisir, mais est-ce que Lille a un intérêt à lâcher justement les Lenny Euro en cours de saison même si tu arrives à négocier, t'achètes le Lenny Euro et tu leur laisses en prêt pendant 6 mois, voire 18 mois pour qu'ils continuent à jouer chez eux. Moi, j'ai l'impression que Lille, en soi, n'a aucun intérêt à nous le vendre cet hiver. Surtout qu'en fait, ce serait plus pour favoriser le PSG qui le ferait. Alors que, au fond, Lille, s'ils attendent 6 mois, ils vont laisser la concurrence faire. Et plus la concurrence va se battre pour lui, et plus le prix va augmenter, et plus c'est Lille qui sera gagnant dans l'histoire.
Très rapidement, parce que moi j'ai envie de répondre, je me suis pas exprimé sur le sujet. Skriniar, c'est pas qu'il est mauvais, c'est juste qu'il est extrêmement lent. Il met une tonne de temps à se retourner. Alors ça peut s'expliquer par le joueur, ça peut s'expliquer par le truc, mais tu peux pas te dire que Skriniar c'est à l'heure actuelle une certitude. Il y a trop de questions qui entourent ses titularisations. Et si c'est vrai que autour de Skriniar il y a aussi des défaillances, on a vu Marquinhos louper certains de ses matchs. Tu as quand même un joueur qui est souvent dépassé par la situation et qui apporte pas non plus les garanties que tu pouvais attendre au niveau aérien. Donc, il y a des questions qui se posent et le Skriniar de Milan, l'impression visuelle qu'il dégageait avant sa blessure, ben on l'a pas encore. On n'est pas là pour taper sur un joueur, on est là pour se poser des questions, essayer de mettre relativement et on n'est certainement pas là pour casser du sucre sur les joueurs. Maintenant, je relance Bastos sur Lenny Euro.
C'est un joueur que j'adore vraiment. Il joue à Lille. Lille est l'équipe que je regarde le plus en Ligue 1 après le PSG depuis que Fonseca est le coach. On sait que l'année dernière, Lille, son défaut était de prendre pas mal de buts, même si le jeu produit était superbe. Cette année, c'est différent. Et d'autant plus depuis que Thuram est devenu titulaire, il y a une dizaine de matchs avec Alessandro, c'est la charnière. Sur les 7 derniers matchs de Ligue 1, Lille n'a encaissé que 2 buts en ayant joué, notamment des gros comme Rennes, enfin, même si Rennes était en méforme, Lens, etc. Marseille, Monaco, exactement. Donc Lille enchaîne les clean sheets avec cette charnière-là. Et on a Yoro qui avait des sautes de concentration l'année dernière qu'il n'a plus, notamment des fois où il faisait, prenait trop de risques à la relance. Il continue à les prendre, mais il est beaucoup plus assuré, c'est normal. Il vient d'avoir 18 ans, là, je crois.
18 ans, ouais. Mais du coup, pour toi, Basso, il a 18 surtout, ans, mais il est déjà prêt pour être titulaire.
Alors, mais comme l'a dit Tonton, il a des qualités que nos défenseurs n'ont pas, c'est-à-dire dans les duels aériens, il est très fort, que ce soit offensif ou défensif. Et ça fait partie des joueurs qui sont capables de créer une occasion en étant le déséquilibre par la passe de la défense. Nous, on n'a pas trop ça. On n'a pas vraiment de passe de déséquilibre. C'est-à-dire, il va casser une ligne de 30 mètres, tu vois. T'imagines, il arrive à trouver Dembélé en faisant ça. L'Euro est capable. On l'a vu à lui encore quand il trouve des gros vas sur 2-3 phases de possession. Et on sait qu'Enrique, et comme Fonseca, travaille ses relances basses s'il avait les joueurs à disposition. Donc, l'Euro correspond à ça. Maintenant, l'Euro tout de suite, non. Mais l'idée de Paris, déjà, c'est de le prendre et de le prêter à Lille au moins 6 mois. Après, tu peux négocier hein, si tu veux doubler les autres, parce que Lille peut se qualifier peut-être en Ligue des Champions. Ils sont à un point du podium en ce moment, ils sont quatrième. Tu peux aussi te dire, tu l'achètes et tu le prêtes 18 mois.
Oui, bien sûr. Mais justement, c'est la question que j'avais envie de te poser. Tel que tu le présentes, on a presque l'impression qu'en fait, c'est un joueur dont on a besoin maintenant. Est-ce qu'il y a vraiment une valeur, du coup, ajoutée à prendre un risque avec. Laisse-moi finir ma question. À prendre un risque avec un joueur qui a 18 ans, qui, mine de rien, joue beaucoup et Tonton pourrait te relancer beaucoup là-dessus, qui a un vrai risque de blessure, et te dire bah tiens, je vais le prendre dans un an et demi alors qu'il va beaucoup jouer, qu'il peut se blesser, qu'il y a plein d'incertitudes. Avec 18 ans, tu as beaucoup moins de garanties qu'avec un joueur qui a 22-23 ans. Est-ce qu'il y a une vraie opportunité de le prendre pour pouvoir le récupérer plus tard, ou est-ce que bah justement, si on le prend, bah c'est maintenant et c'est maintenant tout de suite?
Je pense que si on prend la meilleure solution, c'est juste de le prêter à la fin de saison à Lille. Lille, de toute façon, ne voudra pas le vendre cet hiver. Hein.
D'accord. Donc, est-ce que c'est une opportunité?
Même s'il a 18 ans, je préfère prendre largement un joueur comme ça qui a des qualités, une maturité et des qualités qui ne correspondent pas à ce qu'on a, qu'un joueur peut-être plus confirmé, avec plus de certitude, plus âgé, mais qui a les mêmes défauts que nos décès actuels. Donc oui, Yoro, moi je prends sans sourciller.
Alors pour ne pas être démonétisé, je ne vais pas répondre avec les bons mots pour cette question, mais c'est journée de match de Ligue des Champions, donc tu n'as même pas posé la question, Tony. Journée de match de Ligue des Champions, il commence à 5h du mat, en fait. C'est sous perfusion. Si tu veux, c'est du goutte à goutte, et c'est à 5h du mat. Tonton, je te laisse réagir sur l'opportunité de le prendre, si on peut l'avoir tout de suite, mais est-ce que ce n'est pas un risque si tu le récupères dans un an et demi?
Dans un an et demi Non, au contraire, parce qu'en fait, là-bas, il est sûr d'être titulaire, contrairement à chez nous. Et quand je te parlais du risque de blessure chez les jeunes joueurs, alors, je vais développer un peu plus, il y a des postes où tu es plus soumis à ça. Et pour le coup, quand je parlais de Warren Zaïre-Emery, Warren, c'est un joueur qui se dépense énormément, qui est milieu de terrain, et c'est pas par hasard, tout comme Gavi et Pedri, c'est des milieux de terrain qui sont hyper actifs au milieu de terrain. Lenny Yoro, c'est un défenseur. Donc du coup, en soi, même s'il est actif, pour un défenseur, c'est pas tout à fait la même chose qu'un milieu. Cependant, justement, si Lenny Yoro passe 18 mois, ce sera 18 mois où il sera titulaire à Lille, et au moment où tu le récupéreras, il aura vraiment plus d'une saison et demie dans les jambes complètes. Mais je rejoins Basto dans le sens où, pour moi, je le prête 6 mois, parce que déjà, tu as Kimpembe qui est en fin de contrat dans 6 mois. Tu ne sais pas exactement si Marquinhos ou Skriniar vont rester à terme, et même Danilo Pereira. Donc du coup, dans tous les cas, moi, je prends Lenny Yoro là, je le prête à Lille parce que il a commencé la saison à Lille, et pour moi c'est important qu'il la termine. Au moins il aura ses automatismes avec son compère en défense, il va développer justement des complémentarités tactiques avec l'autre profil en défense à côté de lui. Fonseca va l'aider à se développer et à se post-former, parce qu'il faut dire ce qu'il est dans sa post-formation à son âge. Et finalement, si tu fais ça, il arrive dans 6 mois, tu lui fais faire la prépa avec le PSG, avec Luis Enrique, tranquillement tu l'installes et il va prendre sa place petit à petit, et c'est la meilleure chose que tu puisses faire. Mais si tu le prêtes 18 mois, avantage, oui, bon, tu ne l'auras pas modelé à ton image pendant 18 mois, mais dans 18 mois, quand il arrive, ce sera 18 mois qu'il aura joué comme archi-titulaire à Lille, sauf blessure.
Alors, très rapidement, et après je te passe la main à Basto. Il y a Olivier qui demandait les points forts, c'est Basto qui te les a nommés tout à l'heure. C'est un très très bon jeu de la tête, capable de créer des déséquilibres dans le jeu avec des passes au sol et des passes longues, et vraiment vraiment capable de briser une ligne en fait. Et c'est un défenseur central qui a la mentalité pour prendre des initiatives. Et c'est là-dessus où il est intéressant par rapport à ce qu'on a. Mais Basto voulait réagir et du coup je te passe la main.
Juste rappeler que Yoro a pris Jorge Mendes comme agent. Donc, comme Barcola l'avait fait pour aller chez nous.
Voilà, on ne veut pas trop vous indiquer quoi que ce soit. Mais... D'ailleurs, ce sera assez marrant, hein, Lenny Yoro qui ferait Lille prêtée par Paris, parce que c'est un mec qui est né en région parisienne et qui a déménagé à Villeneuve-d'Ascq à 5 ans et qui a fait toute son enfance et formation à Lille. Donc, si tu l'achètes et que tu le prêtes à Lille, ça sera un peu à l'image de son parcours.
Il y en a, c'est vraiment un argument. Il est né à Paris. Et...
Alors, non, mais justement, Basto, t'as vu notre échange sur Twitter hier, Basto, par rapport à ça. Alors oui, si t'es parmi des personnes, parce qu'il faut le dire, il y a des personnes qui vont penser que Lenny Yoro, c'est une bonne recrue, parce que surtout, il est né à Paris. Et j'entends l'argument de, oui, il est né à Paris, et du coup, bah, comme t'es un club parisien, bah, du coup, ça te permet de rajouter un peu d'identité à ton club. Cependant, attention, faut pas le recruter parce qu'il est né à Paris. Faut le recruter parce qu'il répond à des problématiques d'équipe et que son recrutement va être bénéfique pour l'équipe. Si tu me dis que tu le recrutes parce qu'il est né en région parisienne, on risque de recruter beaucoup de joueurs assez moyens en utilisant ce précepte-là. Alors que si tu recrutes des joueurs qui répondent à une problématique d'équipe, ils peuvent très bien être parisiens, ces mecs-là, d'ailleurs. Hein. Mais vaut mieux recruter les mecs qui répondent à une problématique d'équipe que les mecs qui sont nés à Paris. Quoi. J'aime pas trop le contexte actuel qu'il y a.
Là-dessus, on va être d'accord. Mais après, le fait qu'il ait joué à Paris, déjà, alors il y a l'argument émotif. Tu vois,
il n'a pas joué à Paris. Il n'a jamais joué à Paris. Il est arrivé à 5 ans à Villeneuve-d'Ascq, donc il a tout fait à Lille.
Laisse-moi finir. Il y a l'argument émotif, à savoir Titi et tout ça. Même s'il n'a pas joué, il vient de Paris, ça marche. Et puis après, il y a l'argument objectif des listes de Ligue des Champions. Et ça, c'est un vrai argument. Alors, il y a deux choses. La première chose, c'est n'hésitez pas ce soir, si vous avez envie d'assister au match en live, pourrez le voir à 20h30 et notamment avec Nyx. Et ensuite de ça, on enchaîne sur le débrief. N'hésitez pas. Et là, il y a une question qui est juste, mine de rien, qui taquine, c'est que la jeunesse, on commence à l'enchaîner. Et c'est très bien, hein, d'avoir de la jeunesse. Mais si tu ramènes un Lenny Yoro, et etc., est-ce que du coup, tu mets pas trop de jeunesse dans ton effectif? Est-ce qu'à un moment, tu vas pas avoir un vrai déficit d'expérience qui va commencer à kick-in? Basto.
Alors, déjà, juste, Yoro, tu as dit c'est un argument pour la Ligue des Champions, mais ça change rien qu'il soit né à Paris ou pas, ça.
Non, je pense qu'il répondait pas à nous dans le chat. Tu parles de YK10, je pense qu'il ne parlait pas à nous, je pense qu'il parlait à quelqu'un d'autre dans le chat. Non, parce qu'il a dû nous écouter, il a dû comprendre ce qu'on parle, vu qu'on ne parle pas dans une langue étrangère et qu'on est plutôt clair.
Donc, trop de jeunesse. Après, Yoro, il arrive pas forcément pour être titulaire d'entrée. Tu as Lucas, tu as Marquinhos, etc. Donc là, ça fait partie des joueurs qui sont encadrés. Tu ne te retrouves pas avec Emery, et Yoro, et machin, et etc. Yoro, je pense, au début, tu le verras dans un rôle un peu comme Barcola, tu vois. Donc, qui s'intègre petit à petit, qui ensuite, après 2-3 saisons, a le potentiel pour devenir évidemment titulaire indiscutable. Mais moi, ça ne me dérange pas d'avoir des joueurs comme ça si tu ne les multiplies pas dans ton 11 type ou dans les joueurs, les 14-15 joueurs les plus importants. Ils sont un peu en dessous de ça. Après, oui, si on pouvait avoir plus de maturité, peut-être à un poste notamment, un certain Bernardo Silva, évidemment, qu'on prend aussi, mais une équipe peut-être un peu jeune, mais elle va apprendre, elle va grandir ensemble en même temps. Donc ça, c'est marrant à voir. C'est aussi bien. On est passé d'une équipe où on parlait des papis devant qui ne couraient plus parce qu'ils avaient 36 ans, etc., etc., à une équipe qui maintenant est jeune. Ça fait un peu d'air frais. Tu vois, des Nuno Mendes, ils ont eu, etc., des Ugarte, ils sont jeunes, mais ils sont déjà efficaces.
Je t'entends, je te laisse réagir sur l'argument de trop de jeunesse, tue la jeunesse.
Pas forcément dans le sens où qui sont tes jeunes. Si tes jeunes sont des joueurs qui sont des futurs moyens, oui, il n'y a aucun intérêt, mais si tu prends des joueurs qui sont jeunes, mais qui sont des futurs top joueurs et qui répondent déjà à des problématiques de ton équipe, pourquoi s'en priver en fait? Je veux dire, le fait de les recruter jeunes, ça te permet de les modeler à ton image, en plus de plus facilement les faire adhérer à la culture club. En fait, tu les fais grandir toi-même au sein du club. Et en fait, quand ils arrivent à maturité, tu n'as pas à leur dire bah, « il est formé de telle manière, moi j'ai besoin de l'utiliser de telle manière bah, ». En fait, tu auras assuré tout ce travail toi-même. Donc du fait de post-former toi-même des jeunes joueurs et que tu arrives justement à les garder et en faire des top joueurs au sein de ton effectif, c'est le meilleur truc qui puisse t'arriver, en fait. Parce qu'en vrai, on en a déjà pris des joueurs, des top joueurs qu'on allait recruter, genre super cher. Genre, il paraît, il y en a un, on a pété sa clause à Barcelone, un Brésilien là. Est-ce qu'on a été satisfait de son passage au PSG? Pas pour autant. Donc, si tu. Moi, je suis plus pour prendre des jeunes joueurs à fort potentiel que tu peux développer au sein de ton équipe ou auxquels tu peux justement transmettre des valeurs club pour justement mieux les faire adhérer. Bah, ces mecs-là, quand ils seront des top joueurs, bah, ils seront, comment dire? Je vais pas dire malléable parce que
Ah,
tu vois, genre, je vais pas dire ce mot,
j'ai
mais.
tellement des contre-arguments à ce que vous dites en fait.
Non, mais
Déjà,
moi j'entends que tu as besoin d'expérience dans une équipe, mais moi,
non,
si
mais
tu recrutes beaucoup de jeunes joueurs parce que tu démarres à l'aube d'un nouveau projet et que ces joueurs, tu vas les garder longtemps et que bah, à la fin de ton projet moyen-long terme, bah, tu te rends compte que tu as bien fait de prendre ces joueurs, pourquoi en fait s'en priver?
Alors, déjà, la première chose à dire, c'est, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'expérience Mota-Maxwell, où on était très content d'avoir justement des cadres pour entourer un jeune projet. Et on estimait leur apport essentiel et important. Ensuite de ça, il y a tous les débats à l'époque. Alors, c'était quand, il faut remonter à longtemps, c'est quand pas Luis Enrique, Luis Fernandez
Luis Fernandez.
était joueur et tout ce qu'il en a suivi. Même pareil, on peut parler de Deschamps qui était au milieu. Et il y a un moment où avoir de l'expérience, c'est super important parce que tu peux avoir des joueurs qui sont très très bons et tout ça. On peut prendre l'exemple d'Ugarte, où tout à coup, tu as le nombre de matchs qui se multiplient et tout à coup, bah, il a des matchs où il est moins performant. Alors, est-ce qu'il est moins performant parce qu'il y a trop de matchs qui justifient, parce qu'il y a trop de poids qui est placé sur ses épaules? On peut parler aussi de Vitinha l'année dernière, qui après un mois et demi, eh ben, tout à coup se retrouve catapulté comme enfin la réponse depuis Thiago Motta alors qu'on n'a jamais eu de milieu et qui peut-être ça lui pèse mentalement. Aujourd'hui, on est en train de se plaindre de sa timidité. Est-ce que le poids qu'il a, est-ce que la timidité qu'il a aujourd'hui n'est pas aussi une explication de tout le poids qu'on a mis sur lui la saison passée? Alors sans doute un petit peu des deux, hein. Le but, c'est pas de tirer sur quelqu'un, mais il y a un moment où moi, je ne suis pas parfaitement en total désaccord avec ce que dit Snapil, c'est je suis d'accord avec vous, c'est qu'il faut ramener de la jeunesse, que l'important c'est vraiment est-ce que le joueur correspond au poste, mais il y a un moment où construire des lignes avec que des mecs de 20 ans, surtout quand on parle que des mecs de moins de 22 ans, surtout quand on parle de la charnière et quand on parle du milieu de terrain, si tu n'as pas d'expérience, tu vois par exemple, ça c'est extrêmement notable, tu prends un Warren. Warren, il a le mental. Warren, il a quelques progrès encore à acquérir, je pense, au niveau rapidité de la passe, etc., notamment dans les phases de possession quand il est un petit peu de dos. Mais tu sens qu'il a cette dimension patron et chez lui, c'est naturel. Mais la majorité des joueurs, et Ugarte en fait partie, leur maturité d'autorité, je ne sais pas bien comment la qualifier, tu sais très bien qu'elle va intervenir à 25, pas forcément avant. Et donc, avoir que des joueurs très jeunes et mettre tout le temps du paquet pour parler en mode un peu comme Campos, non pas des 1-1, mais avoir en gros que des A2. A2, il faut savoir, hein, Campos, A2, c'est potentiel furieux classe, et A1, c'est un furieux classe. Et avoir que des A2, bah, c'est un équilibre qui n'est pas toujours très sensé.
Mais Seb, de ce que je sache, on a recruté des Lucas, des Skriniar aussi avec ces jeunes-là. Donc le déséquilibre, je ne le vois pas.
On est d'accord. On est
Oui.
d'accord.
Non,
Je
mais c'est
faisais
un
aussi.
ensemble, et même, je veux dire, même quand tu parles de jeunes, des fois, il y a des jeunes, ils ont pas besoin d'avoir 30 ans pour avoir l'expérience d'un mec de 30 ans. Je pense qu'au final, ça dépend plus du mental du joueur que tu recrutes, bah, que de son âge. Je veux dire, des fois, il y a des. Je veux dire, regarde, quand on parle de joueurs, de ballon, tout ça, tout ce que tu veux. Là, regarde, on va poser la question entre nous, là, dans le chat. J'ai cité deux jeunes joueurs et deux joueurs d'expérience. Ça veut pas dire que, c'est mieux d'avoir l'expérience dans tous les cas. Je veux dire, si je te pose la question demain, tu as le choix entre la défense avec Gvardiol à gauche et Yoro à droite dans l'axe. Tu préfères ça ou tu préfères la défense expérimentée d'Danilo Skriniar? Donc voilà, c'est pas qu'une question d'âge. Il y a une histoire de profil, il y a une
Il me
histoire
cite. Non,
d'expérience.
non, 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 non. Tu dis ça, tu me laisses répondre. Tu me
Vas-y.
cites, tu me cites, tu me cites une charnière avec deux des joueurs avec le potentiel le plus important pour Gvardiol, on est même au-delà de ça. Et tu me dis, tu préfères jouer avec ça ou avec des Playmobil? Bien sûr,
Ben
la
oui, j'ai
réponse,
fait
elle est
exprès, il n'y a
facile.
pas que l'âge
La
qui compte,
réponse,
on est
elle est
d'accord.
facile. La réponse, elle est facile. Non, mais ce que je veux dire, c'est non, mais bien sûr, mais l'argument, il n'est pas là. C'est qu'il y a un moment où, il y a un moment où, si tu veux, cette jeunesse, elle peut être parfaitement performante et avoir, au milieu de saison, un moment plus difficile. Et c'est là où, tout à coup, l'expérience, elle est super importante. Et c'est comme toujours, c'est un équilibre à trouver. Mais comme Vasso l'a dit, c'est là où Campos, qui est critiquable à pas mal d'aspects, mais là-dessus, il est très intéressant, c'est que tu sens vraiment cette optique de recruter du A1, du A2 et du B1. Et il essaye vraiment de trouver un équilibre, et là-dessus, c'est intéressant, quoi. Et alors, après, maintenant, je me suis un peu perdu, mais il y avait
pas au milieu. Pas au milieu.
Alors, déjà, ça nous parlait, on parlait beaucoup des centraux. Voilà, elle est là. Du coup, pourquoi recruter? Alors, c'était sur l'argument Paris, vous faites quoi de Presco? Mais est-ce que pour vous, Presco, c'est encore un joueur du Paris Saint-Germain?
Il est sous contrat, donc c'est un joueur.
Ouais. Est-ce que tu peux aller un petit peu plus loin? Je fais exprès de poser la question de manière trollesque pour que ça s'énerve et pour que notamment YKDIS se fâche dans le chat, etc., etc. Mais au-delà de la question trollesque, vois la question et réponds-y, Baston.
Oui, non, mais de toute façon, Kimpembe est revenu à l'entraînement il y a quelques jours, semaines. Il est encore en phase de reprise, donc on va le revoir, je pense, après la trêve. Peut-être même quelques minutes avant, chose j'en sais rien, mais on va revoir Kimpembe dès janvier. Donc oui, il va revenir dans la rotation, il aura son coup à jouer. Hein. C'est le seul qui est axe gauche avec Lucas. Donc,
faut que tonton il arrête d'être schizo. Hein. Faut que tonton il arrête d'être schizo.
Je reviens dans le chat.
Non, mais tu réponds en live. Et donc tu enchaînes sur la question. Est-ce que Skriniar est encore un joueur du Paris Saint-Germain?
Skriniar?
Non,
Presco.
Oula.
Non, mais voilà, faut que tu arrêtes de te perdre dans le chat et que tu suives un peu Draya, je suis désolé. Donc, pour te répondre sur Presnel Kimpembe.
Je suis l'autre, j'ai le droit, moi.
Bien sûr. Pour répondre, moi aussi, j'ai le droit, je suis le plus ancien. Mais Presnel Kimpembe, ouais, tu vois, justement, ce qui me concerne, il arrive en fin de contrat et j'ai un peu l'impression que on va faire avec lui comme on a fait avec Mamadou Sakho. Merci pour tous les services rendus. On va pas te mettre de bâton dans les roues, on va te faciliter un départ et comme ça, tu seras tranquille, dans le sens où il faut dire ce qui est Presnel Kimpembe, si aujourd'hui tu demandes 30-40 millions, les clubs se diront il y a un risque de mettre ce prix pour un joueur qui a un gros potentiel de blessure. En revanche, si tu me dis que Presnel Kimpembe c'est un joueur qui est libre de tout contrat et dont tu n'auras pas d'indemnité de transfert à payer, bah forcément le standing des clubs qui va s'intéresser à lui ne sera pas le même. Donc je pense que dans l'intérêt de tout le monde, Kimpembe c'est un joueur que j'aime bien, c'est même un mec que j'aime beaucoup, j'estime qu'il faut ce genre de mec dans un vestiaire. Mais j'ai l'impression que on n'arrivera pas à tirer une meilleure version de Kimpembe que ce qu'on avait tiré en 2020. J'ai l'impression qu'on ne peut pas être à l'abri des blessures avec lui chez nous. Mais je pense qu'il y a moyen qu'il performe plus s'il n'est plus au PSG. Je pense qu'il y a besoin d'autres choses. Et je pense qu'au final, si tu le laisses partir libre, moi, tu lui dis merci pour tout ce qu'il a fait quand même. Tu vois, tu n'arrives pas en mode dégage, on veut plus de toi. Genre, tu lui fais un vrai hommage quand même, tu vois. Mais moi, j'estime qu'en fait, genre, pour moi, Presnel Kimpembe, c'est un peu comme Mamadou Sakho en l'ancienne. C'est merci pour tout ce que tu as fait et on va pas t'embêter, on va te laisser partir tranquillement et comme ça, tu auras le choix du roi, en fait, vu que tu seras libre.
Alors, très rapidement, Thiago, c'est cool, hein, y a pas de problème. N'hésite pas de temps en temps de faire des commentaires, pas que sur l'OM. Participe avec les gens, discute, etc. etc. On peut parler foot et même, même si tu es supporter de l'OW. Soyons honnêtes, hein, personne n'est parfait. Moi, je suis pas parfait, même si je suis bien au-dessus de tous les rats de la terre. Mais ça, c'est un autre débat. N'hésite pas. Oh si, tu peux m'accorder ça. Mais n'hésite pas à participer dans les commentaires, machin, etc., etc. Parce que je pense qu'on peut parler foot et il y a aucun souci. Et pour Presco, je trouve que la comparaison avec Mamad, elle est un chouïa dur parce que Presco est quand même bien au-dessus de Mamad.
Je
suis sur ta ligne parce que YK pour répondre, c'est avec Presco, il y a trop d'incertitudes en fait. Au-delà de est-ce qu'il peut encore se blesser, va-t-il retrouver son niveau d'avant? On parle d'un joueur qui a été absent pendant 2 ans. On parle d'un joueur qui ne sait pas jouer sans jouer à 150% et sans tout à coup essayer de faire un grand écart de ballerine avec un corps de Robocop s'il faut réussir à arrêter le ballon. Donc c'est un joueur qui, s'il n'est pas à 120%, il est hyper, hyper en qualité de manière monstrueuse. Et est-ce qu'il peut encore jouer à 120%? Il y a trop d'inquiétudes. Il y a même cet attachement avec Paris où, à Paris, comme le disait Tonton, il veut trop bien faire. Et peut-être que le mettre dans un environnement où la pression serait moindre pour lui, lui permettrait de retrouver son football de manière un peu plus sereine. Et mine de rien, Presco, c'est aussi le passé. C'est aussi un joueur d'avant. C'est un joueur qui nous a fait rêver, notamment en Ligue des Champions, son intervention sur Messi qui a fait le tour de Twitter avant que Twitter existe et qui a continué depuis que Twitter existe et qui continuera après que Twitter aura fini d'exister. Il nous a fait rêver. C'était le Titi. Mais c'est le passé. Il y a eu 2 ans sans lui. Il y a des choses qui tournent, il y a des choses qui évoluent. Et il faut savoir laisser partir des joueurs.
Surtout quand c'est des joueurs. Pour lui, il y a 18 mois, on est très intelligent.
Par contre, si on est dans cette logique de il faut tourner la page et Kimpembe c'est le passé, je suis désolé, il reste encore une pièce dans ce puzzle qui s'appelle Marquinhos. Et pour moi, si Kimpembe part, il n'y a aucune raison de garder Marquinhos. Les deux dégagent. Hein. On est bien d'accord. Si Kimpembe part, on ne garde pas Marquinhos.
Mais même plus, parce que Kimpembe était là, mais Marquinhos a été un des symboles de ces années Paris Saint-Germain.
Tout à fait d'accord.
On a fait partir, alors il y a plein de gens qui ne seront pas d'accord, mais on en a fait partir un des deux avec Marco Verratti. Et Marco Verratti, un homme délicieux, un joueur formidable quand il a son meilleur niveau individuellement, collectivement, c'était plus discutable, on va pas revenir dessus. Mais effectivement, Marquinhos est aussi un de ces symboles-là. Et en soi, pouvoir vraiment tourner la page, c'est aussi savoir dire au revoir à ces symboles. Est-ce que quelqu'un voulait rajouter quelque chose?
Non, je pense qu'on a fait le tour des sujets en soi et même on a répondu aux questions.
Alors, ça nous parle encore de Kanguin, et puis d'ailleurs, c'est YK qu'on retrouve presque au MAM. Est-ce que pour vous, Kanguin, mais c'est une question en soi, est-ce que c'est un joueur plus compatible avec la LDC que Vitinha? Ouais, je peux étayer la question. Hein, là,
non, mais je vois ta question.
Au niveau de l'activité physique, au niveau de l'intensité de pressing, etc., etc. Est-ce que, du coup, dans des matchs à haut pressing, il n'est pas plus opportun de jouer avec Kanguin Lee qu'avec Vitinha? Bon, on peut la reformuler comme ça, si tu veux. Ça.
Ouais, non, mais en fait, pour moi, je les vois plus complémentaires qu'opposables, en fait. Parce que Vitinha, genre, ils jouent plus bas sur le terrain que Lee Kanguin. Et donc, si tu les mets tous les deux au même poste, ils n'auront pas les mêmes spécificités, en fait. Tu ne vas pas demander à Lee de faire le taf défensif de Vitinha et tu ne vas pas demander à Vitinha de faire le taf offensif de Lee, en fait. Enfin, je le vois comme ça, en tout cas, tu vois.
Je ne sais pas répondre à cette question.
Bastou, il a du mal à se construire des certitudes encore sur Kanguin. Il a besoin d'en voir plus avant, parce qu'il a commencé en mode « Ouais, maintenant, le joueur, je ne sais pas, machin, bisous le chouette. » Puis il a fait des bons matchs, mais il a fait… Puis tout à coup, il a fait un bon match. « Ah oui, mais il fait quand même des mauvais matchs. »
Il a fait que cinq mauvais, donc on en fait beaucoup, beaucoup. Et il a été plutôt intéressant en sortie de banc aussi. Donc pareil, est-ce que ce n'est pas aussi un joueur qui a ces défauts-là pour lui qui est une qualité, c'est d'être bon en sortie de banc? Comme Colo, parce que Colo reste titulaire. Tu sais, ça peut être des défauts, des joueurs qui sont bons en sortie de banc, du coup, ils se retrouvent remplaçants.
On a un JS qui débarque, mais alors, t'as tout loupé, mec.
Non, mais le replay existe.
On a parlé de Colomoigny, je fais. Ah, on a parlé de Colomoigny, on a parlé bien sûr du match de ce soir, on parle de Lenny Yoro, on parle de Presco, on parle de la charnière. N'hésite pas à te refaire le live, à mon avis, il est au petit plus oignon, et tu te le mets dans le métro, au calme. Il passera crème. Et voilà. Faut laisser l'autre finir quand il commence, tonton. Faut laisser l'autre finir. Sinon, donc, bon, on a parlé de ça. On a eu pas mal de commentaires sur Mbappé et j'ai l'impression que Mbappé est très attendu ce soir. Accepterez-vous une performance encore en demi-teinte de Mbappé en Ligue des Champions?
Non.
Non. Et donc,
c'est lui le leader de cette équipe. Il a demandé plus de responsabilités au sein de cette équipe. Il les a, c'est le plus gros salaire. C'est la star numéro 1, c'est le meilleur buteur. Enfin, l'an dernier, c'était Neymar et Messi qui prenaient quand ils faisaient pas les bonnes prestations dans ce genre de match parce que logiquement, c'était eux. Maintenant, c'est lui. Donc, t'as les responsabilités. T'as pas voulu prolonger, t'as pas voulu partir. Tu vas partir en fin de contrat. Donc, je pense qu'il nous doit bien ça, ouais. Je pense qu'il nous doit d'être. Top dans ce genre de match, surtout que celui-là, si on le perd, on aura le droit de lui taper dessus.
Avant de lancer Basto, juste une petite commande. Avec Mbappé, on ne connaît pas le futur. On ne sait pas s'il va partir. On n'en sait rien et c'est même pas la peine d'essayer de se projeter dessus. Basto, je te laisse réagir.
Oui, ça dépend ce qu'on appelle demi-teinte parce que quand il met un triplé à Reims, on dit c'est un demi-teinte. Donc s'il met un triplé ce soir, est-ce que même s'il n'est pas bon dans le jeu, est-ce qu'on lui tombe dessus? Ou s'il nous fait gagner le match avec un triplé, on lui tombe pas dessus.
Moi, s'il fait gagner le match, il n'y a pas de problème. Mais voilà. Il me fait gagner le match par contre, il met les trois buts. Oui. S'il est mauvais dans le jeu, on est d'accord. Parce que s'il n'est pas bon dans le jeu et qu'en plus il marque pas et qu'en plus on gagne pas.
Ah non, bah là oui, là ça ferait beaucoup.
Après, est-ce que le jeu de Mbappé, on peut le mesurer qu'à sa participation au jeu et au but marqué? Est-ce que par sa simple présence et par sa qualité d'appel, qui est, elle est indéniable, par le fait que l'équipe adverse est obligée de systématiquement mettre deux joueurs, voire trois joueurs pour lui, est-ce que le simple fait qu'il soit là n'ouvre pas des brèches pour les autres?
En fait, j'allais te répondre à ça, genre si tu me dis que Mbappé il est capable dans le match de dire je vais faire des appels pour attirer les autres, pour que les autres joueurs prennent la profondeur et marquent, bah avec grand plaisir, mais ce Mbappé aujourd'hui c'est possible. Genre lui il va faire ça pour les autres. J'ai du mal, tu vois. J'ai du mal à y croire. Si tu
on,
dis...
sent, on sent la non, frustration mais... pointée hein, chez le joueur.
Bah oui. Non, mais oui, mais complètement. Parce que, genre, je veux dire, en vrai de vrai, moi, si tu me dis que Mbappé, il va faire ça et que ça va permettre à Ramos et aux autres de marquer et qu'on gagne le match, mais moi, il n'y a pas de problème, ne marque pas. Si tu fais ça, il n'y a pas de problème. Mais je le vois mal faire ça. C'est pour ça que je me dis, pour moi, je le vois plus être buteur ou participer statistiquement, parce que j'ai l'impression que c'est ce qu'il cherche de plus en plus à devenir. Genre, il s'en fout s'il est bon ou pas dans le jeu du moment qu'il a ses stats. J'ai cette impression et je me trompe peut-être, tu vois. Donc moi, si tu me dis que il est prêt à faire les sacrifices, les courses dans le vent pour attirer les défenseurs, pour faire des trous dans la défense pour que les autres en profitent, et qu'il ne marque pas, ben moi, ça me va. Mais est-ce qu'il est prêt à le faire?
Moi, je dirais qu'il est un peu entre les deux et il hésite. Est-ce que tu veux réagir, Baston?
Bah, de toute façon, Mbappé il va avoir du mal à être décisif ce soir, vu qu'il y a Kolo Muani sur le terrain. Donc... On connaît les stats d'Mbappé.
Et taille, c'est-à-dire qu'ils font un peu trop les mêmes appels et que du coup, ils se retrouvent un peu trop...
C'est simple, sur les 16 buts marqués par Mbappé, il y en a 12 quand Kolo Muani n'est pas sur le terrain déjà depuis le début de saison. Après, un peu, c'est juste une stat pensée comme ça et je trollais un peu notamment.
Et réagis après, ce qu'on va faire après, Vassou.
Mais oui, je pense que... Bah, c'est vrai que t'as un problème avec Colo, c'est qu'effectivement, les deux font des appels qui souvent sont semblables et il n'y a pas de recherche entre les deux, alors qu'avec un Ramos, on va dire qu'Mbappé peut être plus libre de faire ses appels avec Dembélé, avec un joueur qui décroche un peu plus, ou avec Asensio encore. C'est encore plus flagrant avec Asensio. Mais avec Colo, oui, on a l'impression que les deux, pour un moment, il n'y a pas de complémentarité, même que ce soit au PSG comme en équipe de France d'ailleurs. Mais c'était plus un petit troll pour le patron qui nous écoute.
Et très rapidement là-dessus. Dans les matchs trop physiques, est-ce qu'il a peur de la blessure et il se retient?
Ouais, je pense pas.
Je pense pas. Il y a un petit point intéressant, mais très rapidement, parce qu'on n'aime pas, parler d'arbitrage, mais la manière avec laquelle est tournée est intelligente, parce que c'est possible qu'effectivement on ait un match qui soit relativement agressif au milieu de terrain et que c'est vrai, l'arbitrage pourrait avoir un impact sur ce match et devrait être particulièrement sérieux. Alors, sur Mbappé, on a fait... oui, il y a un joueur... Bon, on va faire très rapidement, parce que mine de rien, ça fait 1h10 qu'on est là. Sur Barcola, à droite, ça pourrait servir en fin de match. Est-ce que vous validez ça, messieurs?
Barcola qui rentre, n'importe quelle poche, je valide dans tous les cas. Voilà, au moins, on s'est dit... Voilà, faut répondre, je veux dire... Moi, je vais parler honnêtement, Barcola, il fait vraiment partie des joueurs que j'apprécie cette saison. Tu vois, genre, l'an dernier, t'as vu quand j'avais acheté mon maillot, là, regarde, bah, tiens, c'était celui-là. Quand on m'a offert celui-là pour mon anniv l'an dernier, on m'a dit, ouais, tu veux floquer qui? J'étais en mode, mais en fait, personne. Genre, le seul que j'avais envie, c'était Nuno, et je me suis dit, ouais, mais il va se blesser, donc ça vaut pas le coup. Finalement, j'ai eu du flair. Et là, je me dis, cette année, quand on m'a offert un maillot et qu'on m'a dit, tu veux floquer qui? En fait, j'ai dit personne parce que je ne savais pas qui je voulais floquer. Parce que j'hésitais entre Barcola, j'hésitais avec Ousmane Dembélé, j'hésitais avec Warren Zaïre-Emery, j'hésitais avec Lucas Hernandez. Et en fait, genre...
T'as même pas voulu Nuno l'an passé.
Alors si, mais non, mais à un moment, quand les choses sont évidentes, je ne les répète pas, comme dit ma grand-mère. Tu vois, il n'y a pas besoin de dire 40 fois que 2 plus 2 égale 4. Mais voilà, cette année, il y avait du choix. Et du coup, ben, il y a beaucoup de joueurs que j'apprécie cette saison. Et du coup, j'ai envie de les voir jouer. Et un Barcola, ben... il me fait plaisir et ouais, j'ai envie de le voir jouer plus en fait, tu vois. Et je pense que si en plus on se permet de gagner le match, bien sûr que son entrée, elle va lui permettre de rentrer avec de la confiance. Et du coup, bah, s'il rentre avec de la confiance, bah, il sera plus pertinent et il aura plus envie de multiplier le temps de jeu, tout simplement.
Alors très rapidement, Anthony, ouais, peut-être que Mbappé est frustrant, mais au-delà d'être frustrant, ça reste le meilleur buteur du club et rien que pour ça, bah, tu vois, c'est son but, c'est son rôle, c'est buteur et on peut pas discarder trop sévèrement ses performances quoi qu'on pense du joueur. Maintenant, c'est une question pour Basto, puis après on a un Riyad qui a envie du tonton, donc on va y aller pour le Riyad et le tonton. Mais pour Basto, Ruiz, est-ce que tu penses que si Ruiz continue sur sa lancée, il peut prétendre à une place de titulaire?
Bon, ça me paraît compliqué. C'est parti avec Ugarte et Mery et il n'y a pas de raison pour Enrique, je pense, de changer, mais ça peut devenir le couteau suisse qui peut remplacer à la fois Ugarte et à la fois Mery en première solution de banc. Donc, à l'arrivée, un mec qui va jouer la moitié des matchs cette saison. Donc, pas titulaire indiscutable dans les gros matchs, mais qui fait partie des, on va dire, des 14-15 joueurs clés sur lesquels...
Quatrième bon, ouais, j'ai des doigts qui se perdent.
Non, mais c'est quatrième bon pour Ruiz.
Et bon, après tiens, j'ai encore un de mes fanboys. Ben, je suis ravi. Si tu ne m'aimes pas, ben, arrête de regarder, mec. Il n'y a aucun souci. Et pas
non, mais je comprends. Mon nom de famille est très porté en Argentine aussi. Donc, c'est peut-être pour ça que je suis plus apprécié.
D'accord. Alors, sinon, ben, ça y est, maintenant on est sur Riyad. Alors, tonton. Ah non, ben, le pronom, non. Je vais le garder pour la fin.
Ah, je ne suis pas bon.
En plus, ça. Penses-tu que le PSG peut atteindre le dernier carré?
C'est compliqué. C'est toujours une histoire de tirage. Parce que si tu regardes l'an dernier, la Ligue des Champions, si. Bon. On aime bien Lessi, tu connais, mais Lessi n'aime pas les Rays. Mais en vrai, l'an dernier, si on termine premier de notre poule et qu'on ne déconne pas, en fait, on a le tirage de Benfica, donc on a
Ou pas.
potentiellement un
Ou
parcours
pas.
facile jusqu'à la finale avec City. Alors, c'est ça le problème. Là, cette année, c'est un peu la même chose. Si tu termines deuxième de ta poule, t'es mort en huitième. Tu peux taper le Bayern, le Real, le Barça, l'Atlético. Enfin bref, tu tapes le même Arsenal, le haut du gratin. Par contre, si tu termines premier de ta poule, que vas-y, genre, on va être sympa, genre, tu tires qui? Tu tires Copenhague en huitième. En quart, tu tires une équipe soit malade, soit la confrontation la plus faible des huitièmes, bah là, tu es facilement dans le dernier carré. Donc en fait, comment dire, c'est facile à dire dans le sens où tu peux ne pas être forcément très en forme, mais réussir une très bonne prestation en Ligue des Champions parce que tu as eu le tirage favorable. Regarde l'AC Milan l'an dernier. L'AC Milan, si tu les mets dans la partie avec le Bayern et City, jamais ils arrivent jusqu'en demi. Donc il y a de la performance, mais il y a aussi toujours un facteur chance. Même le PSG, quand il joue la finale de Ligue des Champions, Final Covid, je sais plus quoi là, on affronte, même si il fallait les éliminer, on affronte l'Atalanta, on affronte Dortmund, on affronte Leipzig, on ne s'est pas tapé City, le Bayern et le Real Prime à la suite, tu vois. Donc il y a toujours un facteur chance au tirage dans lequel t'es pas dépendant en fait.
Plus rapide. Et du coup, Basso, tu voulais réagir vite fait?
Ouais, juste non, si on finit premier groupe, on ne sait pas si on a le tirage de Benfica, puisque c'est pas un tirage intégral et que c'est une question de probabilité. Donc ça aurait changé les probabilités et ça aurait changé tout le tirage au sort. Donc on ne sait pas si on n'aurait pas tapé un gros aussi. C'était juste pour
Bah,
préciser.
moi, tu vois, je me mets juste par rapport au truc, hein. Mais ça n'aurait rien changé au tirage dans le sens où le Bayern peut taper Benfica et nous, on pouvait tirer Bruges, tu vois. Mais
Oui,
je comprends ta logique.
tonton, ouais, mais alors pour toi, du coup, on a franchi le gap mental, ce qui était
Non, je te dis
notre
pas qu'on
premier
a.
point.
Non, parce que même Luis Enrique le dit lui-même, tu vois, genre, il y a beaucoup de progrès à faire encore dans cette équipe. On est au début d'un projet, on n'a même pas 6 mois de projet. Non, on n'a pas passé tous les caps et ça se voit. Regarde notre match à l'extérieur contre Milan et contre Newcastle. Milan ne marque qu'une seule fois en Ligue des Champions, enfin 2 buts, mais dans un seul match, et c'est contre nous. Newcastle ne gagne qu'une seule fois en Ligue des Champions en poule cette année, c'est contre nous. Donc bien sûr qu'il y a encore des trucs à corriger. Non, notre équipe, elle n'est pas parfaite. Et voilà, je veux dire, il y a beaucoup de choses à améliorer. Même dans l'effectif, dans le jeu, tu as encore des manques visibles sur le terrain, bien sûr. Mais je suis vachement plus optimiste de la suite avec ce que je vois cette année, que ce que je vois les 2 années précédentes et les 2 coachs précédents.
Alors, avant la dernière question de Riyad, c'est Basso, tu en parlais tout à l'heure, l'état de forme des joueurs de Newcastle.
14 blessés, 14 forfaits, dont 3 titulaires à l'aller et les 3 qui étaient rentrés en cours de jeu, donc qu'on rajoute à des forfaits qu'ils avaient déjà. Donc, ils ont potentiellement 5-6 titulaires de leur 11 type si tout le monde était là qui est absent, et en plus pas mal de bancs. Donc, ça fait beaucoup. Ouais, si...
Et on va terminer par la dernière question de Riyad. Alors, il demande à Tonton, mais du coup, vous allez répondre tous les deux. C'est quoi votre prono?
Alors moi je suis nul en pronostic, au moins c'est clair et net, mais je dirais 3-1 pour le Paris Saint-Germain.
Je reste sur ce que j'ai dit samedi, 2 buts d'écart, 2-0 ou 3-1. Bon, on va dire 2-0 pour changer de tonton, il a dit 3-1, donc je dis 2-0, comme ça, on diversifie.
Non mais tu peux
Ouais,
dire ce que tu
mais
veux, t'inquiète
moi
pas.
je vais faire l'original et je vais dire tout sauf 2 buts d'écart en annonçant un 4-2.
Non! Annonce
Oh.
Newcastle, à chaque fois que t'étais pas confiant pour les matchs contre Milan au Parc et Dortmund au Parc et t'étais confiant pour les deux autres. Annonce Newcastle, s'il te plaît.
Bon. Sur
Alors,
ce.
Sven Botman, enfin, je
Il
peux
fait
remettre.
partie des forfaits d'ailleurs, Batman.
Ouais, mais tu vois, genre, justement, le commentaire de Greg Cadis, moi, tu vois, il me choque un peu parce qu'il montre justement à quel point le projet, on l'a pas toujours bien réglé. Des mecs comme Botman, comme Guimaraes, pour le coup, seraient bien imposés chez nous, hein, YK. Mais facile.
Batman à Lille, il était plus que bon.
Mais, oui, et même là, à Newcastle, il est même très,
Oui.
très bon, donc, voilà.
Messieurs, on va clore ici. Ça fait 1h20 qu'on est ensemble. Si vous êtes toujours pas avec nous, si vous êtes toujours avec nous, oula, je commence à mélanger mes mots. Si vous êtes toujours avec nous et vous n'avez pas mis votre like, bah en vrai, c'est un petit peu abusé de votre part parce que si vous êtes avec nous après 1h20, c'est que vous avez pris du plaisir. Si vous avez mis votre like, oubliez ce message.
On est à
Et
deux likes des 100 likes. Vous pouvez faire un effort, les mecs. Vous pouvez faire un effort. À deux près.
Ouais, je te laisse conclure du coup.
Donc, ouais, justement, j'allais vous dire, bah, merci à tous d'avoir été en live. On est 221, on est à 98 likes, les gars. On est à deux likes des 100. Vous pouvez le faire.
Oula,
Franchement, je vous donne 10 secondes pour le
t'as plus
faire.
de micro? T'as plus de micro, tonton.
Du
coup, bah oui, bah, c'est moi qui vais conclure.
C'est toi qui l'as coupé.
Merci à vous.
Non, non, c'est Dryas qui m'a coupé sous chacal là.
Et on est content que vous soyez toujours plus nombreux. Ce qui nous manque, c'est les likes pour le référencement, c'est de continuer à exploser avec les abonnements. Pareil, si vous êtes sur Deezer, sur Spotify et consorts, bah, les abonnements, ça nous aide, ça nous permet d'acquérir de plus en plus de visibilité, de passer de plus en plus devant au niveau des algorithmes. Et donc, on compte sur vous ce soir. Il y a un gros match. Soyez tous bien devant l'équipe. Si jamais vous avez envie d'assister au live, il y a le live avec Nyx, majoritairement seul, mais qu'il y aura aussi Kevzor qui vont passer. Il y a Souza qui va passer. Et après, n'oubliez pas, il y a le débrief après match. Grosse journée pour le Paris Saint-Germain. Grosse journée pour Paris Central. Et surtout, n'oubliez pas, ici, c'est Paris.